Bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui à l'initiative du service documentaire de l'École des Ponts, que nous remercions pour cette organisation compliquée, dans le cadre de la Semaine internationale du libre accès aux ressources scientifiques et numériques, qui se tient pour la 7e année consécutive, et notamment à l'initiative du réseau Couperin, qui est le consortium des établissements de recherche et d'enseignement supérieur pour l'accès aux ressources numériques, à l'initiative aussi du CCSD, Centre pour la communication scientifique directe, que vous connaissez sans doute parce que c'est le CCSD qui est une unité mixte de services du CNRS, de l'INRIA et du Press de Lyon, créée fin 2000, qui a ouvert les archives ouvertes HAL, sur lesquelles sans doute vous avez déjà publier vos peut-être textes intégraux en archives ouvertes. Je vous redonne quelques informations pratiques si vous souhaitez profiter du libre accès aux ressources numériques, même pendant cette matinée, ce que je ne vous conseille pas, bien entendu, parce que ça va être dommage pour les débats, l'intérêt des débats. Vous avez sur la diapositive qui tourne les identifiants pour l'accès Wi-Fi. Apparemment, il y a des petits problèmes sur certains téléphones portables. Et vous pouvez aussi tweeter en live, si vous voulez. Il y a un problème sur le téléphone portable ? Non. La matinée, par ailleurs, est enregistrée. Donc, si vous laissez vos coordonnées, votre email, vous pourrez recevoir le lien vers la vidéo de la matinée, pour le diffuser à des amis, par exemple. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je partirai d'un exemple, et puis je donnerai rapidement la parole à nos invités que je vais présenter, et aussi à la personne qui est à l'extérieur de l'amphi, que vous avez dû croiser en arrivant, Alexandra, qui représente l'association Open Button Access. Donc ça, je vais juste vous en dire un mot. Donc, actuellement, pour être reconnu comme chercheur publiant, les chercheurs de nos établissements ont tendance à faire confiance à des revues de rang A, dites de rang A, publiées par des grands éditeurs scientifiques tels que Elsevier, pour mettre leurs publications chez eux. Et curieusement, nos chercheurs produisent les contenus, ensuite ils offrent gratuitement leur expertise pour évaluer le contenu des articles de leurs pairs, enfin, ils mettent en page eux-mêmes, aux normes de la revue, les articles qu'ils ont eux-mêmes publiés, ils font tout ça sans contrepartie financière, et en plus, on prime la revue qui va les éditer une fois qu'ils auront été évalués, acceptés, etc., vont leur piquer leur copyright, et ils ne pourront plus rien faire par eux-mêmes pour diffuser leurs propres connaissances. D'un autre côté, ces mêmes chercheurs, pour effectuer leur recherche bibliographique, vont avoir tendance à faire appel à ces mêmes revues. Ils vont passer par des bouquets de revues qui sont acquis pour eux par les services documentaires de leurs établissements publics à grands frais, parce que ces revues sont extrêmement coûteuses. Et donc, en gros, ils repayent pour le savoir qu'ils ont eux-mêmes produit gratuitement, en plus en perdant une grande partie du copyright. Alors, la question qui se pose, on est dans l'ère du numérique, dans le web 2.0 qui permet d'envisager des tas d'autres formes de production, diffusion, évaluation des savoirs. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut échapper au monopole d'éditeurs scientifiques tels qu'Elsevier, qui finalement privatise la connaissance scientifique. On est en plus face à une crise, comme vous le savez, budgétaire, financière importante, donc les budgets de nos établissements publics, à la fois pour nous aider à produire de la recherche et à acquérir les fameuses revues payantes, ces crédits fondent comme neige au soleil, donc il va falloir trouver des solutions pour aller davantage vers le libre accès. Donc à travers ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire encourager la diffusion des textes intégraux dans HAL, on a entamé déjà cette démarche depuis plusieurs années, l'École des Ponts comme l'Université Paris-Marne-la-Vallée comme d'autres sont très actifs là-dessus. Mais donc nos invités de la matinée vont nous permettre de débattre sur la mise en compétition, entre guillemets, enfin les formes alternatives à ces éditeurs scientifiques. Alors nous avons 4 invités. Nous avons donc, je vais commencer par la personne qui sera plutôt disponible après les conférences, donc à l'extérieur pour répondre à vos questions, qui est Alexandra Giannopoulou. Elle est en thèse de droit actuellement et elle travaille sur les Creative Commons. Pour sa thèse, mais elle représente l'association Open Access Button. Elle va vous expliquer la démarche de l'association et qu'est-ce que c'est que ce button, en fait. C'est une façon, quand vous cherchez un article en libre accès et que vous ne le trouvez pas, bon, déjà, si vous le trouvez, vous pouvez en informer d'autres pairs qui travaillent sur les mêmes thématiques que vous, en disant « j'ai trouvé cet article en open access ». Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez envoyer, grâce à ce button, vous pouvez envoyer des signaux et contacter les auteurs pour leur signaler. On aimerait bien pouvoir accéder à certaines de vos publications en open access et non pas de manière payante, parce qu'il y a plein de doctorants et autres qui ne peuvent pas avoir accès à des ressources payantes. Donc ça, c'est Alexandra. Nos deux conférenciers sont Nicolas Turenne, qui va ouvrir le bal, qui travaille sur les épirevues, et Mathieu Andreau, qui va nous parler en bon français, crowdfunding et crowdsourcing. Donc, en gros, comment mobiliser le grand public, soit pour cofinancer, soit pour coproduire la recherche. Enfin, Roger Franck, qui est président de la Société internationale de mécanique des sols et géotechnique, directeur de recherche au laboratoire Navier, CERMES, nous fera l'honneur d'intervenir comme grand témoin. Et il a une longue expérience de cette question des copyrights, aussi bien lors de conférences internationales que lors des publications que lui et ses pairs ont pu publier au cours d'une longue carrière qui n'est pas terminée et qui est fort riche. Première intervention, je donne la parole à Nicolas Turenne pour 30 minutes. L'intérêt de cette matinée, c'est de pouvoir vraiment échanger et débattre sur des domaines qui sont plus ou moins sciences dures ou sciences sociales, qui est peut-être moins représenté là parmi nos intervenants. Donc, les chercheurs en sciences sociales, ça sera à vous de prendre la parole pour poser les questions qui se posent sur vos thématiques à vous. Hein.
Bonjour. Je fais juste un petit correctif. Je ne suis pas spécialiste en épirevue. J'ai créé une épirevue. Et je vais parler de choses que je n'ai pas faites, donc de la plateforme qui sert à héberger les peer reviews dont je suis à l'origine. Je parle plus fort. Donc pour dire juste, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, trois petits mots sur ce que je fais dans la vie. Je travaille dans une unité de sciences sociales qui, enfin, je l'ai un petit peu noté là, sera créée dans 70 jours, donc je ne vends pas la mèche. C'est une UMR interdisciplinaire qui réunit des informaticiens, des sociologues, des experts en Sciences Po, pour réfléchir sur les liens entre la science et la société. Et de mon côté, je suis plutôt expert en sciences du numérique, etc., sur les parties d'analyse de données. Voilà, donc ça c'est fait. Et je me trompe pas de bouton. Donc le sommaire de ma présentation va se décliner en quatre parties. Donc je vais faire un petit rappel historique de l'édition scientifique pour rappeler un petit peu les bases, et rebondir là-dessus pour enchaîner sur la notion d'épijournal, qui est en soi-même un concept, sûrement novateur. Ensuite, je parlerai de la plateforme en tant que telle d'EpiSciences, et je ferai une illustration sur évidemment la revue que j'ai montée depuis un an. Donc, en termes de rappel historique, la notion de journal, elle est quand même très très ancienne. Ça a forgé un petit peu la science moderne. Donc, ça date du XVIIe siècle. Avec le Journal des Savants en France et le Transactions of the Royal Society of London en Angleterre, avec la notion de diffusion, de communication. Alors à l'époque, les scientifiques n'étaient pas aussi nombreux que maintenant, c'était je pense quelques milliers de personnes en Europe, mais ils ont ressenti le besoin de s'appuyer sur un support. La notion de conférence est encore plus ancienne. C'est remonte à ce qui est pour moi un petit paradoxe, mais donc à l'issue de ça, les objectifs étaient à peu près clairs. Hein, c'est un peu dans les guidelines de l'éditeur, etc. Donc les gens qui ont forgé ça, c'est Denis de Salo et Henri Oldenburg. Donc leur but, c'était de vraiment de disséminer la connaissance à travers l'Europe, avec des moyens un petit peu modernes. Voilà, donc il y avait déjà des abonnements, ça, enfin, c'était pas gratuit. Par rapport à ça, même si les journaux, les revues sont anciennes, la notion d'évaluation scientifique est relativement récente. Ça a évolué de proche en proche, jusqu'à après la Seconde Guerre mondiale, adopter un modèle d'anonymisation des auteurs, anonymisation des auteurs et des relecteurs. Et le web actuel remet en question un petit peu la pertinence de ce modèle-là. Donc, en termes d'évolution, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les articles sont plus juste des vecteurs de connaissances, mais fixent la paternité des résultats, donc au même titre que les brevets. Et c'est aussi utilisé depuis la Seconde Guerre mondiale comme indicateur et donc système d'évaluation des carrières des chercheurs, ce qui est loin d'être négligeable. Ce qu'on peut noter depuis cette évolution contemporaine, c'est qu'il y a un réel marché qui est lucratif, un marché économique autour de ça, et que le nombre de revues est réellement astronomique. Donc j'ai cité deux revues qui ont développé le système. Maintenant, si on va voir un site comme journalsic.org qui recense toutes les revues, on est à 102 000 revues dans le monde. Ce qui est vraiment colossal. Alors, si on retombe sur les effets d'évaluation, si on essaye de repositionner par rapport au système d'évaluation, ce qui est caractéristique, et ça a été mentionné en préambule, c'est que le Web of Science, qui est une base assez ancienne et qui a été faite pour développer des indicateurs bibliométriques, recense 9000 revues. Donc 9000 revues parmi les 102 000, et donc il y a cette notion d'impact factor qui signifie que l'impact factor d'une revue, c'est le nombre de citations attendues d'un article par rapport aux revues de cette même base. Donc si on prend comme référence 1 comme impact factor, les revues qui ont un impact factor supérieur à 1, il y en a 5000. Donc ces 5000 revues, c'est le graal en fait de la carrière d'un chercheur. Ça aussi, ça peut être remis en question avec les moyens de diffusion actuels et les moyens de citation que peuvent avoir un article. On est face à un déluge d'articles, production d'articles. Il y a plus de 2 millions d'articles produits par an. Et donc ce Web of Science qui recense les 9000 revues du Graal, c'est 40 millions de publications. Donc de manière beaucoup plus récente et pour rebondir sur ces effets de revue électronique, la vague de l'open access, elle date pas de un an ou de deux ans de ces dernières années. Archive a été créé de manière un peu anecdotique avant même Internet, l'Internet moderne on va dire, en 91 par des physiciens. Et actuellement, donc c'était là pour un petit peu accélérer les processus d'évaluation, parce que les processus d'évaluation de revues de rang assez élevé peuvent prendre plus d'un an, voire plus, enfin peut-être deux ans. Donc pour accélérer le processus d'accès à cette information, certains ont pensé mettre en place ce système d'accès à des versions un peu primitives. Et donc en France, HAL a émergé 10 ans plus tard. Donc Archive, c'est plus de 900 000 articles en full texte disponibles. Et HAL, c'est à peu près 300 000 articles. HAL va un peu plus loin qu'Archive parce qu'il y a des notices aussi, des notices sur des rapports, etc. Donc en termes d'indexation. Ce qui a marqué, enfin le fer de lance de l'open access moderne, c'est la revue PLOS. La revue PLOS qui a été développée par une réaction face au système de plusieurs centaines de chercheurs d'universités enfin, très reconnues, Stanford, Berkeley, Oxford, etc. Et donc ça a été développé par des biologistes Enfin, c'est un petit peu naturel parce que quand on voit le nombre de revues qui sont dans les qui ont un impact factor très élevé, donc supérieur à 5, c'est majoritairement des revues de biomédecine. Donc c'est presque naturel que ce soit eux qui se soient remontés face à ce système parce qu'ils sont vraiment au cœur du système. Et donc, ils ont lancé un nouveau modèle qui fait rage, je veux dire, en ce moment. Et avec une déclinaison, c'est-à-dire que c'est l'auteur qui paye. Donc l'article est gratuit, contrairement à ce qui précédait. Donc l'article validé, parce que sur Archive, il y a des preprints qui ne sont pas validés. Donc l'article validé est gratuit, mais l'auteur paye. Donc c'est un modèle qu'on appelle Gold Standard. Gold Open Access, pardon. Je pense qu'ils en abusent un petit peu parce que actuellement ils diffusent à peu près 30 000 articles par an. Ils se mettent en porte-à-faux par rapport à leur propre initiative. Enfin, c'est un peu une opinion qui court. Mais ça n'empêche pas qu'ils ont, posé les pierres angulaires du système. En France, on peut noter l'inclination de la revue Modulade, qui était une revue un petit peu classique, un peu, on va dire, marginale, faite par des mathématiciens à piquer. Né en 88 et qui a rejoint ce modèle open access avec un modèle green open access en 2005. Et on voit que cette notion d'évaluation des carrières a joué probablement un petit rôle parce que ça n'a pas tenu la route aussi longtemps que ça. Donc depuis 2010, sauf erreur de ma part, il n'y a plus d'autres articles de cette revue. La question par rapport à ça, c'est que on peut interroger le système de manière assez naturelle, c'est-à-dire que les chercheurs créent de la valeur, mais la question c'est qui finance la recherche pour les chercheurs. Ça a été évoqué. Est-ce que les éditeurs offrent un bon service au bon tarif? Il y a des remises en question. Alors ces remises en question, certains se l'ont accaparé, cette remise en question, à travers des nouveaux modèles d'édition à large diffusion, etc. Donc on a vu PLOS, mais il y a beaucoup de PLOS, c'est forgé une image d'éditeur revue. Donc il y a plusieurs revues, il n'y a pas qu'une seule revue, il y a PLOS One, mais il y en a d'autres. Mais c'est une toute petite plateforme, des plateformes à plus grande échelle qui proposent des centaines de revues ont émergé autour de 2005 avec ce modèle comme PLOS, de modèle Gold Open Access. Alors, il y a une inquiétude qui est montée forcément parce que ça s'est développé en concurrence avec les éditeurs classiques, etc. Et il y a eu des inquiétudes par rapport à ça et du fait du double échange que peut avoir l'éditeur avec les chercheurs. Et là aussi, il y a eu une remise en question. Et cette remise en question, elle est venue d'un blogueur qui s'appelle Bill, aux États-Unis, assez reconnu, qui a édité, qui a fait une liste des éditeurs, un petit peu entre guillemets, qu'il a nommé frauduleux. Et donc, en français, on a traduit par prédateur. Donc, en gros, des systèmes, un nouveau modèle de système, mais qui, en fait, ne fait que reproduire plus ou moins ce que le système actuel est en train de développer. Il y a beaucoup d'incertitudes qui se sont montées là-dessus, mais ça a montré, au moins, ça a eu le mérite de montrer qu'il y a des enjeux financiers derrière et qu'il faut se poser des questions. Et donc, dès qu'on fait un affichage des coûts d'acquisition par les bibliothèques, on voit clairement que les choses ne se font pas de manière un petit peu monotone, uniforme. Donc, il y a des enjeux. Donc là, l'image, c'est clairement de dire, est-ce qu'il y a du donnant-donnant entre la création de valeur par les chercheurs, l'évaluation faite par les chercheurs, la recherche et la dissémination des connaissances, et les sociétés savantes dirigées par une élite, et les éditeurs qui sont de mèche avec cette élite, etc. Donc, pour aboutir à ce concept des peer reviews, le but, c'est non pas de plumer qui que ce soit, et c'est justement, à travers ce modèle des peer reviews, de développer des infrastructures publiques comme Archive. Personne, enfin aucun particulier, aucun labo paye pour Archive, mais certaines universités peuvent contribuer à son développement. Et l'idée, à travers cette notion des peer reviews, c'est de développer une infrastructure publique avec Episcience pour développer ce nouveau modèle. Alors, la notion d'EPI journal en anglais, c'est Overlay Journal. Donc c'est un journal électronique en libre accès avec une soumission via une archive ouverte. Donc c'est en gros les grandes lignes. Donc ça offre un accès libre, immédiat aux résultats, et sans embargo ou contrepartie financière. Et ça vise à... Il y a une notion de rupture parce que ça propose une alternative à l'édition classique, mais il faut que ça reste scientifiquement viable aussi. Donc il y a une notion de continuité de rupture. Sur le plan historique, c'est pas si récent que ça. C'est pas les éditeurs prédateurs qui ont fait naître ce concept des peer-reviews, puisque à l'origine, ça s'est fait dans la continuité du modèle archive d'archives ouvertes. Donc il y a eu un embryon de revue qui s'est monté en physique, puisque Archive, c'était à l'origine des physiciens qui l'ont fait. Donc forcément, le contenu était très, très, très basé sur les concepts, enfin, des objets de la physique. Et ensuite, selon un spécialiste en sciences de l'information, donc c'est vraiment en 99 où des vraies revues, des vrais épis journaux ont vu le jour avec un modèle qui pourrait s'apparenter à ce qui se fait maintenant avec ma revue notamment. Donc, comme je disais, il y a une continuité. Enfin, tout ça aussi, c'est lié. Enfin, ça remet pas en question, mais ça c'est force de proposition pour des nouveaux types d'évaluation. Donc, on a une évaluation. L'évaluation reste la même. Il y a une évaluation en interne qui se fait avec des allers-retours avec l'auteur et un comité éditorial. On peut imaginer que les évaluations soient publiques ou pas. Donc, c'est sujet à discussion. Mais on peut aussi imaginer qu'il y ait une notion de réseau social qui s'agrège autour de ce processus d'évaluation et que le système soit fait pour permettre à des collègues de produire des annotations sur des publications et que ça fonctionne aussi de manière un peu collective. Enfin, que l'évaluation soit beaucoup plus collective qu'elle ne l'est. Donc dans la manière dont les choses s'opèrent, c'est que tout se voit de manière assez fluide et un peu gratuite pour l'auteur et le lecteur. Donc, c'est ce qu'on appelle le Green Open Access. Dans cet univers, le document est public immédiatement. L'anonymisation aussi des auteurs disparaît. Et en gros, personne ne paye pas grand-chose. Donc pour reprendre la notion de continuité et de rupture, par rapport à toute cette infrastructure qui est à la fois technique et on va le voir et aussi sociale, il y a des épicomités qui se construisent autour de grands domaines, comme dans les éditeurs, chez les éditeurs classiques. Donc il y a des épicomités qui décident l'admission des nouvelles revues entrantes. Ensuite, les contenus sont accessibles. Donc sont accessibles au lecteur, à l'auteur, il y a une relecture, et la rupture, c'est, on peut l'imaginer, c'est une reprise en main par les communautés scientifiques de leur revue, donc beaucoup plus en autonomie par rapport à l'éditeur, et ça peut s'adresser aussi, en termes de rupture, aussi bien à des revues indépendantes, qu'à des revues émergentes. Donc la question... Donc la vision d'Episcience, c'est-à-dire de l'infrastructure d'Episcience, c'est de... tout le monde l'a compris, c'est d'avoir une base open access, donc en termes de piliers qui permettent le stockage de tous les articles validés, d'avoir un comité éditorial qui garantit la valeur et l'auteur qui garantit la créativité. Donc tout ça se fait autour d'une plateforme électronique. Donc je passe maintenant à cette plateforme. Donc la plateforme Episcience, elle a mis du temps à se mettre en place. Donc l'idée s'est développée en 2007 par des mathématiciens. Et ensuite le CCSD, qui est le Centre de communication scientifique directe, si je me souviens bien, a lancé concrètement une opération de développement, de mise en place d'un site web pour essayer de concrétiser les choses. Et des tests ont été faits avec notamment ma revue et une revue existante de mathématiques discrètes, avec l'idée derrière de se positionner sur les sciences dures initialement, donc avec la biologie aussi. Donc en ce qui concerne le côté opérationnel, il y a une équipe qui met en place et qui maintient le système, donc en partie qui provient de l'INRIA, donc avec Laurent Romary et puis son équipe autour de lui, et au CNRS, le CCSD, avec deux personnes. Donc en gros, il y a six personnes, mais trois personnes à temps plein, vraiment, qui font vivre cette plateforme. Donc comme je disais, il y a des épicomités dans tout ce workflow éditorial. Et pour l'instant, il y a deux épicomités, un en maths, qui est principalement localisé à Grenoble, et donc aussi un comité en informatique, en sciences du numérique. Donc les épicomités vont valider la création ou l'admission de revues dans la plateforme. Donc pour sa maintenance et... Par rapport à une vision multi-échelle, la notion d'épicomité, c'est le niveau plutôt macro. Il y a le niveau méso, qui est tout ce qui est interaction humaine avec le comité éditorial de la revue. Donc chaque revue gère un petit peu son périmètre. Donc c'est indépendamment de la plateforme, la politique de la revue, politique éditoriale, la parution, donc ça c'est la politique éditoriale, plus la validation des articles. Et il y a le niveau micro qui est le workflow par rapport à la plateforme, où l'auteur va soumettre son article via une pré-soumission à une base ouverte comme Archive, HAL. Pour notre revue, c'est Archive HAL, mais on peut imaginer d'autres bases à côté de ça. Et donc ensuite, le rédacteur en chef assigne des relecteurs parmi son comité. Les relecteurs peuvent demander des corrections. Donc il y a des échanges avec l'auteur. Donc tout ça se fait via la plateforme. Il y a une invisibilité. Il peut y avoir des emails en particulier, mais en gros, toute la plateforme fait une gestion de tout ce workflow. Et ensuite, une fois que le rédacteur en chef a validé l'acceptation de l'article, donc l'article est finalement stocké sur la base Open Access dans sa version, corrigée et acceptée par la revue, avec la notation comme quoi la revue propose l'article. Donc ça, c'est une vue un petit peu workflow du système. Donc, en gros, ça retranscrit un peu ce que je dis, où le contributeur va soumettre son article à la base, et ensuite on a tout le process jusqu'à l'acceptation. Donc une fois que, donc, je veux dire, comme j'avais un petit peu présenté avant, enfin, je veux dire, le modèle d'EpiJournal peut aussi envisager des moyens de véhiculer la connaissance autre qu'un format papier simple, donc avec des vidéos, avec d'autres types de médias. Pour l'instant, en tout cas en ce qui nous concerne, on se contente à minima d'un PDF. Donc il n'y a pas de présentation d'une communication sous format HTML avec des animations, enfin, mais tout ça c'est envisageable. Et donc le PDF va être estampillé comme quoi il a été validé par l'article et stocké dans l'archive. Techniquement, il y a une réalisation informatique derrière. Donc j'ai mentionné un petit peu toutes les technos qui sont utilisées, mais il y a une vraie plateforme informatique. Donc avec une propriété intellectuelle où la licence de l'auteur c'est Creative Commons, BY, et le logiciel est hébergé par le CCSD, donc il n'est pas diffusé, pas distribué. L'interface visuelle se fait par n'importe quel navigateur web, donc on n'a rien à télécharger ou quoi que ce soit. Et donc là, tous les langages, c'est les compétences qu'il faut pour maintenir l'architecture. Et l'architecture, en gros, elle se fait suivant trois grandes fonctionnalités. Donc il y a les fonctionnalités utilisateurs, les utilisateurs créent leur compte, donc ils peuvent envoyer des mails à l'éditeur via leur compte ou des choses comme ça, ils s'authentifient. Donc ça, c'est sine qua non, on ne peut pas soumettre un article si on n'a pas de compte. Et ensuite, il y a plein de fonctionnalités autour des articles, évidemment. Donc on a des tableaux de bord par l'utilisateur, on a un tableau de bord général de la revue, donc les éditeurs en chef, donc il y a des rôles par rapport aux utilisateurs évidemment, et ceux qui ont le rôle d'éditeur en chef peuvent visualiser quels sont les articles qui sont en cours de relecture, qui a uploadé, téléchargé sa relecture, combien d'articles n'ont pas eu de relecteur affecté, etc. Donc tout ça c'est très transparent et ça va très vite. Et on a l'administration générale du site, évidemment, avec des templates, gestion des menus, et qui peuvent être évolutifs, évidemment, en fonction des iderata des éditeurs en chef qui voudraient rajouter quelque chose, et dont pourraient bénéficier d'autres épijournaux par là même. C'est l'intérêt d'avoir une plateforme unifiée. Donc pour le moment, il y a trois revues qui sont hébergées, donc deux revues existantes, et la mienne qui a été créée depuis environ un an. Donc il y a toujours le schéma, c'est toujours le même. Donc on a c'est accessible par un site web dont le domaine est episcience.org, et il y a l'acronyme de la revue devant. Donc je passe maintenant à l'illustration de ma revue. Donc ça c'est un exemple de revue qui est nativement créé par rapport à Episcience. Sachant, comme j'ai cité précédemment, des revues existantes peuvent s'agréger sur la plateforme. Donc ma revue, c'est une revue en trois mots qui parle d'extraction et de gestion de connaissances, donc de tout ce qui est algorithme pour essayer de rechercher des associations dans les bases de données, qu'elles soient, mais en général, c'est souvent des corpus de texte, mais qui peuvent être des bases de données hétérogènes. Et avec des applications, enfin pas des applications, on va dire des objets, des visées d'associations utiles qui relèvent des sciences humaines et sociales, donc surtout de la sociologie des médias, sociologie de la connaissance, donc histoire aussi, Sciences Po, enfin, tous ces domaines linguistiques, donc ces domaines-là. Donc moi j'avais été contacté, je le cache pas, j'ai été contacté par un prédateur il y a il y a quelques années. Et donc, il y avait une ouverture pour créer quelque chose. Donc, j'ai rebondi là-dessus. Et quand j'ai vu que ça tournait un peu au vinaigre et qu'il y avait la liste de Bill qui était en filigrane derrière, donc avec le comité éditorial que j'avais créé, on s'est posé la question de savoir vers quel type d'orientation on a adopté. Et donc, j'ai... alors, bon, je ne vais pas raconter l'histoire, mais bon, on a choisi de se tourner vers Episcience. Donc, le modèle nous semblait assez intéressant et plus démocratique sous sa forme de green open access. C'est en ce sens que, alors, plus la notion aussi de base d'archives ouvertes qui semblait aussi très intéressante en termes de diffusion et de stockage. Donc ça s'est fait comme ça. Et le premier numéro est sorti en juin, donc avec 6 articles. Donc juin de cette année, donc c'est l'année de baptême. Et on a 12 articles en cours de relecture. Donc le comité éditorial, ça s'est construit autour de trois catégories. On a des co-éditeurs en chef qui sont très actifs pour mettre les mains dans le cambouis et veiller au grain. Il y a un comité que moi j'appelle les conseillers scientifiques, donc en nombre assez restreint, pour limiter la complexité des communications. Donc là, je les ai cités. Et il y a un comité que j'appelle un comité de relecteurs, qui sont des gens d'assez haut niveau et qui aiment bien corriger les articles et rentrer dans la méthodo. Donc là, il y a 71 personnes que j'appelle éditeurs-relecteurs et qui sont là en tant que permanents, on va dire. Donc, on peut solliciter assez régulièrement. Donc le comité international. Donc l'interface sur Episcience, c'est celle-là. Donc on a imaginé aussi une identité visuelle. Donc on a travaillé avec un designer pour faire le logo. Et le menu est assez simple. Donc on voit ici c'est assez discret, mais avec cette petite flèche, on peut créer son compte. C'est très immédiat. Ou on peut rentrer, accéder à son compte. Et il y a aussi cet item-là, une fois qu'on l'a créé. Et le menu est relativement simple. C'est compréhensible avec les articles en ligne, le comité éditorial, la politique éditoriale, le système de navigation. Donc on peut consulter librement qui fait partie du comité éditorial et qui seront les relecteurs. Alors on sait pas, l'auteur ne sait pas explicitement qui sont les relecteurs de son article, mais il sait que ça sera des personnes de ce comité-là. Donc, bon, la liste est importante, je ne l'ai pas affichée en intégralité. La soumission, les règles de soumission, elles se font en quelques étapes. Et, bon, j'avais montré un petit diagramme tout à l'heure. Là, c'est juste rappelé en quelques points en langage naturel. Et donc il y a aussi un toolkit pour aider à la rédaction, parce qu'il y a une mise en page. Enfin, on a essayé pour l'instant d'avoir une mise en page un petit peu uniformisée. Alors quand on est dans son compte, voilà ce qu'on observe. Donc on a un petit peu. Donc ça c'est le mien parce que j'ai soumis un article. Pour l'instant j'en ai pas relu, mais si je devais en relire donc ce serait affiché dans cette même fenêtre. On sait clairement ce qu'on a soumis et ce qu'on doit relire. Donc par rapport aux éditeurs en chef, donc là on a une vision. Là j'ai montré la vision utilisateur, c'est-à-dire auteur ou relecteur. Il y a le rôle d'éditeur en chef, et l'éditeur en chef peut lui avoir une vision beaucoup plus générale sur les articles en cours. donc avec un dashboard qui propose, donc on a eu 41 articles soumis, bon, il y en a beaucoup qui étaient out of scope, donc qu'on a refusé assez, donc, qui étaient plus de l'ordre de la physique ou des sciences naturelles. Et donc on voit par exemple qu'on a 6 articles publiés, puis ensuite là des articles en cours qui attendent leur relecture tranquillement. Donc le dashboard donne une vision assez détaillée de tous les articles qui ont été soumis, et l'éditeur en chef peut nommer, donc à tour de rôle, hein, entre Laurent, Alexandra et moi, on s'attribue le rôle d'éditeur, donc on va s'occuper un peu de la gestion et de l'acceptation, c'est de la gestion en fait. Et donc ensuite, là je les ai un petit peu anonymisés, mais ensuite on propose à un certain nombre d'éditeurs lecteurs de corriger les articles, et on a une vision de qui a accepté et qui a téléchargé, a uploadé sa relecture. Ça, c'est l'image qui permet, la capture d'écran du site qui permet de soumettre son article. C'est relativement simple. Il suffit de soumettre l'ID. Il faut récupérer l'ID qui vient de l'archive ouverte. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je vais aller vite, j'ai presque fini. Alors, il suffit de récupérer l'ID qui provient de l'archive ouverte. Et ensuite, automatiquement, le système va chercher la publication et la propose. Et donc, en bout de chaîne, ça, c'est l'article, les articles qui ont été acceptés. Donc, on a une consultation assez libre. Et une fois qu'on clique sur les articles, on a un résumé de l'article. Et on peut aller consulter le PDF. Alors, soit on affiche le PDF directement, soit on peut aller retrouver la notice de l'archive de Open Access sur laquelle ça a été stocké. Voilà, donc en conclusion, l'EpiJournal propose une flexibilité par rapport aux revues. Donc c'est quand même une architecture assez souple qui est centralisée. Donc il y a un écosystème de revues, donc ce qui profite à une revue profite à l'autre. Mais c'est évolutif, ça peut intégrer d'autres modes de consultation, d'évaluation, et c'est ça aussi qui est intéressant. Et par rapport au JDMDH, on a aussi nos ambitions d'attirer un pôle de relecteurs plus ambitieux que ce qui existe, plus éclectique que ce qui existe maintenant, et on peut évoluer vers quelque chose de plus dimensionné, avec une dizaine d'articles par trimestre. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention et je répondrai à vos questions.
Merci beaucoup. On va passer à vos questions et puis nos autres invités, bien sûr, sont les bienvenus pour commencer à torturer le conférencier et lui poser des tas de questions auxquelles il ne saura pas répondre. Non, mais je plaisante. Est-ce que nos invités ici ont déjà des questions? Et puis sinon, dans la salle, un micro est à votre disposition si vous avez des interrogations par rapport à ce modèle de publication, d'édition de revues sur la plateforme du CCSD EpiSciences.
J'ai tout de suite deux, trois questions. Je n'ai peut-être pas tout compris. Donc, si je comprends bien, le PDF qui est soumis, quel que soit sa forme, est tout de suite visible. D'abord parce que c'est dans des archives ouvertes, quelque part. Mais au niveau de votre revue à vous, c'est visible avant la relecture, enfin, avant l'évaluation. Je n'ai pas très bien compris.
Oui, oui.
C'est visible par tout le monde avant l'évaluation.
C'est visible par tout le monde avant l'évaluation.
D'accord. Donc, on suit le dialogue ensuite. En quelque sorte.
On suit
le dialogue entre l'auteur et les relecteurs.
Oui, oui.
Au moins au niveau, on voit l'évolution de l'article, par exemple.
Oui, oui, oui.
D'accord, c'est intéressant, oui. Vous demandez des articles originaux?
Oui, qui n'ont pas été publiés ailleurs.
D'accord. Oui.
Bon, sauf dans les colloques. Ça peut être des versions minimales, on va dire. Si c'est publié dans un colloque et que ça fait 3 ou 4 pages, l'idée peut être intéressante Et ensuite, on peut demander aux auteurs
de développer.
Voilà.
Enfin, de fournir quelque chose d'un peu nouveau, quand même. Des éléments nouveaux.
Il faut des versions étendues, oui, forcément.
Oui. D'accord. Bon, la question que j'allais vous poser, c'est est-ce que vous entrerez dans le système Web of Science, etc. Bon, quand je vois un impact facteur dans 3-4 ans, c'est ce qui est visé.
C'est ce qu'on vise.
Ouais, d'accord. Ouais.
Mais bon, sachant que, là encore, on ne va pas non plus se donner trop la pression. Donc c'est un objectif. Maintenant, il faut qu'on trouve aussi notre leadership et qu'on parle de nous dans les communautés. Donc là, ce n'est pas complètement acquis non plus.
Vous n'avez pas terminé votre phrase, on ne veut pas donner trop l'impression de quoi ?
De l'impact factor.
Pardon ?
D'obtenir un impact factor.
Ah oui, d'accord.
Donc ouais. L'objectif, c'est clairement d'atteindre un haut niveau international. Si ça vient dans 3 ans ou dans 4 ans, ça sera parfait. Si ça vient dans 8 ans, on fera avec. Mais... Je pense que là-dessus, il faut qu'on soit nous-mêmes acteurs de notre promotion.
Mmh. Bravo, merci.
Merci.
Des questions dans la salle. Moi, j'en ai une sur la... tout à l'heure, vous avez donné l'exemple de Modulad. Qui apparemment donc a été créé en 2005 et puis ensuite a l'air de s'être éteinte vers 2010. Et ça pose la question de la durabilité pour toute initiative. Certains, en général, pour de nombreuses initiatives, il y a un noyau dur de chercheurs qui sont à l'initiative. Et ensuite, vous, comment est-ce que d'emblée, vous vous posez la question de la pérennité en, au-delà de vos initiatives personnelles, de votre initiative personnelle, avoir des renforts suffisants, être partagé en fait cette volonté de faire progresser la revue, de manière à ce que s'il y a l'un d'entre vous qui, là vous êtes surtout trois,
c'est ça qui est intéressant.
Voilà. Mais est-ce que quelle est votre ambition pour partager un petit peu plus de manière à ce que ça soit solide en cas au cas où l'un d'entre vous, pour des raisons personnelles, professionnelles, serait indisponible pour continuer cette aventure, en fait. Donc la durabilité de ce point de vue-là.
C'est une question intéressante, mais je pense que tout repose sur la confiance que le comité éditorial, projette sur l'initiative. Il faut vraiment des éditeurs relecteurs qui croient au projet, qui sont actifs, sur qui on peut compter. Je pense il faut pas croire qu'il suffit d'avoir une plateforme électronique pour faire vivre un projet. Enfin, je pense que là, le facteur humain est quand même très très important. Je pense que pour ma part c'est une philosophie, mais je crois que le comité éditorial évolue aussi. Je pense qu'il y a des éditeurs relecteurs qui peut-être qui à un moment donné vont croire au projet, qui vont plus croire au projet, mais peut-être que d'autres peuvent rejoindre le projet. Et donc ça vit. Enfin, le comité éditorial doit vivre. Donc voilà. Et puis moi, j'espère que si je serai à même de m'orienter vers d'autres projets, d'autres personnes prendront ma place, enfin, ça sera une réussite.
Et au niveau de la validité économique, en fait, là, on voit que la plateforme Episcience repose, donc, comme on l'a vu, sur des personnels qui sont financés par des établissements publics, donc deux personnes au niveau du CCSD, donc portées par le CNRS, et quatre personnes, tout est porté par le CCSD, pardon, donc quatre personnes INRIA, donc à temps partiel pour certaines, et puis deux personnes CNRS.
Pour la plateforme Episcience.
Oui, pour la plateforme elle-même.
La réalisation technique, c'est vraiment le CCSD qui l'a fait.
Qui l'apporte, vraiment.
Qui l'apporte.
Ouais. Et du coup, imaginons que les revues qui soient apportées sur cette plateforme soient de plus en plus nombreuses. Comme on sait que les finances publiques ne se portent pas forcément au mieux, quel modèle économique, à quoi a-t-on réfléchi pour arriver à pérenniser et tendre les moyens, augmenter les moyens de ce petit comité qui du fait de sa petite taille, peut connaître une viabilité économique faible.
Là, le projet a été boosté par notre revue, qui est une revue native. Donc, à l'origine, pratiquement rien n'existait en septembre 2013. Donc là, c'est une phase de croissance. Une fois que le système aura été correctement benchmarké, alors je parle pas des évolutions. Je parle pas des évolutions où on peut imaginer un système de type ResearchGate avec des communications entre les relecteurs, par exemple, très 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 maniable. Donc, si on veut faire ça, effectivement, ça nécessite du développement lourd. Il faut des gens très actifs. Si on se contente d'avoir quelque chose qui soit, on va dire, un squelette autosuffisant pour que la revue fonctionne, maintenant ça existe. Donc, il n'y a pas besoin d'une force de travail colossale. Si on veut imaginer des développements futurs et des moyens de diffuser la connaissance autre que par des PDF, etc., et des communications de type blog dans les petits journaux. Là, effectivement, ça demande des moyens, d'autant plus qu'il y a beaucoup de revues à gérer. Mais moi, enfin, je veux dire, après, c'est un peu tout le principe de la preuve de concept, c'est que une fois qu'on montre que le système est viable, qu'il est opérationnel, effectif auprès de certaines communautés, à mon avis, ça ne sera pas difficile de convaincre le CNRS de positionner un ou deux ingénieurs d'études en plus sur le projet. C'est quand il n'y a rien où c'est difficile de convaincre de développer une force de travail. Moi, je pense que j'ai confiance dans ce... Par mobilité interne, à mon avis, ça ne sera pas très très difficile de pouvoir subvenir aux besoins en maintenance. J'ai vraiment une confiance absolue là-dessus.
Vous avez cité différents modèles d'anonymisation. L'anonymisation des relecteurs, enfin, et des auteurs et des relecteurs. Oui. L'anonymisation des auteurs. Et en revanche, pas... Est-ce que j'ai bien suivi, pas l'anonymisation des relecteurs tout court.
Oui, dans le cas actuel, c'est vrai. Oui.
Là, je suis un peu perdu, parce que moi, le milieu dans lequel je vis, les articles qu'on soumet, la plupart des revues à qui on les soumet, c'est remis aux relecteurs qui connaissent les auteurs de l'article.
D'accord.
En général. Il y en a une ou deux qui commencent à cacher les auteurs de l'article, mais ils connaissent les auteurs de l'article. Avec les travers que ça peut induire, mais enfin, qu'importe, ils connaissent les auteurs. En revanche, les auteurs ne connaissent pas les relecteurs.
Donc c'est
un des cas que vous ne citez pas, alors que c'est mon.
C'est le même modèle qu'on a actuellement. Sauf que dans votre cas, de toute façon, dans l'absolu, on peut pas imaginer qui va relire les articles, mais dans notre cas,
il y a la liste.
Oui. Il y a la liste. Donc on ne sait pas qui dans la liste va relire.
Oui, bon, c'est une forme d'anonymisation.
Oui.
Mais ça existe déjà, je veux dire, la plupart des articles du monde dans lequel je vis, c'est les auteurs sont connus par les relecteurs, en revanche, les rapports sont anonymes.
Oui. Bon, cela
c'est
dit,
plus courant chez nous.
Cela dit,
enfin, c'est un fait, c'est une question de...
Honnêtement, on n'a pas réfléchi à ce genre de, d'évolution.
Non, c'est comme vous citez des, ce qui se fait actuellement, je voulais simplement vous indiquer que dans certains milieux, c'est...
Oui, j'ai déjà vu des articles dans des revues papier où les relecteurs étaient mentionnés dans la publication.
Oui, mais ce n'est pas le cas dans mon milieu, moi, de l'ingénierie appliquée, enfin, géotechnique, mécanique des sols. On ne connaît pas les relecteurs, si ce n'est qu'à la fin de l'année, il y a une liste de remerciements. Il y a une liste où on remercie tous les relecteurs. On leur offre d'ailleurs parfois 20 livres, suivez mon regard, 20 livres sterling pour de réduction quand ils ont fait 5 revues ou je ne sais pas quoi. Un truc de misère qui fait sourire tout le monde. Mais je veux dire, les relecteurs, sont papier par papier, ne sont pas connus. Quoi. Alors que les relecteurs ont connu les auteurs.
Mais bon, moi, j'agis par... Et nous agissons par consensus. Donc, pour ça, il faudrait que il faudrait que je fasse un référendum auprès d'une consultation auprès du comité éditorial et de savoir si, parce que c'est une politique à long terme. On ne fait pas une anonymisation des relecteurs une fois et pas une autre fois.
Mais là, je ne vous donne aucun conseil, ni je ne fais aucun jugement de valeur.
Mais c'est possible.
Simplement, c'est dans ce que vous citez, le cas que je connais n'est pas là, c'est tout. C'était un fait. C'est tout.
Question, donc actuellement vous avez une vingtaine, enfin si on exclut les articles qui étaient en dehors du champ de la revue, vous en avez une vingtaine qui sont soumis ou publiés. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que les gens se sont adressés à vous? Est-ce que c'est un engagement de leur part par rapport au modèle que vous proposez? Ou est-ce que c'est parce que vous êtes sur une revue qui est sur un champ très spécifique qu'ils ne trouvaient pas par ailleurs? Et en liaison avec ça, j'avais une seconde question. Donc vous nous avez indiqué que finalement le point de départ de votre démarche, ça avait été aussi un contact avec un éditeur de revue classique, que vous aviez, au bout d'un moment, choisi de refuser sa proposition, si j'ai bien compris. Est-ce que lui, de son côté, il a maintenu une autre revue avec des gens qui avaient un autre point de vue que le vôtre? Et finalement, il y a deux revues en concurrence maintenant, une dans un schéma classique et une dans le schéma que vous proposez. Ou alors, est-ce que finalement, vous êtes seul sur votre créneau sur ces thématiques-là?
Alors, pour la première partie de la question, c'est vrai que officiellement on n'a pas encore d'ISSN, donc ça doit venir, ça a été déposé auprès de la BNF, c'est une question de jour, ça a été déposé au mois d'août. Donc on n'est pas encore, on n'a pas de e-réputation, mais on va la construire. Et c'est vrai que beaucoup de choses se sont faites en interne. Donc pour le premier numéro, c'est principalement des auteurs qui viennent du comité éditorial. Ensuite, il y a un certain nombre de chercheurs de la communauté data mining qui ont été contactés pour soumettre des travaux. Donc tout ça, c'est un petit peu la cuisine interne, quoi. C'est vraiment très communautaire. Je pense qu'après, je pense qu'il faudra attendre, à mon avis, une bonne année avant que l'image du journal, séduise spontanément. Des candidatures d'articles possibles. Pour la deuxième partie de la question, donc c'est pas un éditeur classique, c'était un éditeur prédateur. Il a laissé tomber le projet. À mon avis, on est à peu près les seuls sur le créneau. Il y a Sage qui a créé une revue très proche, mais bon, c'est plutôt une revue pour les sociologues. Qui s'appelle, je crois, Sociology and Big Data, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus le titre exact, mais c'est plutôt une analyse des Big Data, alors que nous on vise à faire des analyses sur le Big Data. C'est l'analyse de données. Bon, c'est ambigu parce qu'il y a des articles qui publient, qui produisent aussi quelques analyses. Mais je pense que c'est plutôt une observation de la communauté Big Data plutôt que que des travaux sur les big data. Donc on est, ouais, on est les seuls sur le sujet. C'est un sujet qu'on estime porteur. Parce que le domaine de l'analyse de données, de l'extraction des connaissances est plutôt porté sur tout ce qui est données sciences naturelles, donc physique, donc géosciences, biologie, etc., finance, et moins sur des données produites par l'humain. Donc je pense que c'est un développement qu'on cherche à faire. Donc, du data mining pour la linguistique, du data mining pour l'histoire, du data mining pour la sociologie. Enfin, j'espère que j'ai répondu.
Alors, déjà, je vous remercie pour votre exposé. Je trouve que c'est une belle initiative intelligente. Et moi, je veux poser une question du côté des documentalistes dont je fais partie. Si on repère un article, vous dites que tous les articles, en fait, sont visibles avant évaluation. Si j'ai bien compris, comment repérer un article qui a été évalué, qui est validé en fait, par rapport à un article en cours d'évaluation, et ensuite pour dire si jamais on repère un article en cours d'évaluation, combien de temps ça met à peu près pour qu'il soit, je ne sais pas si on dit validé en fait, ou en fin d'évaluation, parce que nous en tant que documentalistes, on nous demande quand même des choses qui doivent être validées, c'est vu comme ça par nos demandeurs.
Voilà. Donc je réponds à la deuxième question, c'est plus rapide. Donc ça dépend la politique, c'est d'avoir un cycle d'environ, on va dire, un mois et demi, deux mois, je veux dire trois semaines pour la relecture, et après, bon, ça nécessite des corrections. Maintenant, c'est le monde idéal, parce que les relecteurs, ils ont leur projet, ils ont leur vie de chercheur, donc ils sont pas payés pour le faire, je veux dire. Donc tout ça, comme je disais tout à l'heure, c'est des relations de confiance. Donc de temps en temps, on fait des reminders. Donc là. La première partie de la question, si j'ai bien compris, donc effectivement, la publication est soumise sur une base ouverte, donc a priori, elle n'est pas évaluée. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si un... Alors, comme je disais, il y a un processus de mise à jour de la base, c'est-à-dire qu'il faudrait que je revienne un petit peu avant. Si j'ai bien compris la question. Donc là, par exemple, c'est typiquement un article qui a été déposé sur Archive et qui a été accepté par notre revue. Et on voit que, effectivement, là, on est en version 2. Donc il y a le résumé. Si l'auteur a jugé que. Enfin, les relecteurs ont jugé que le résumé était correct, donc il ne changera pas beaucoup. Les mots-clés, a priori, ça sera probablement les mêmes que la première version. Par contre, ici, on voit journal référence, Journal of Data Mining Digital Humanities. Donc, il y a une mise à jour de l'application. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question.
S'il n'y avait pas eu de mise à jour, ça serait comment ? Imaginons que c'est soumis et pas encore évalué. Qu'est-ce qu'on verrait dans journal référence ?
Il n'y aurait rien.
Il n'y aurait rien, voilà.
Mais ça, c'est sine qua non, parce que sinon, c'est trompeur. Je veux dire, on travaille gratuitement, quoi. On fait une mise à jour d'article sans que notre travail soit reconnu. Et justement, c'est les métadonnées. Hein. Je veux dire, cette métadonnée, elle est là pour dire que le comité éditorial a validé le contenu scientifique. Et c'est la gratitude qu'on a vis-à-vis de... Et donc ça, c'est des relations qu'on a avec Archive aussi. Hein. Je veux dire, s'il n'y avait pas de relations... alors A, elle est gérée par le CCSD, donc c'est naturel. Mais Archive est en relation avec Episcience. Et il y a des relations qui sont très, très correctes. Donc ils appliquent un peu des desiderata qu'on a par rapport à ça. Donc ça s'est fait... Ça s'est fait normalement. C'est sine qua non. Genre, parce que sinon, moi j'aurais un peu tiqué, je veux dire, si ça n'avait pas été fait. Mais, donc ça s'est fait, c'est très bien.
Donc ça veut dire que, juste pour compléter, ça veut dire que si on repère un article vraiment clé, on voit que dans le journal référence, il n'y a aucune indication de la métadonnée, Ça veut dire qu'on peut comprendre qu'il est en cours d'évaluation, et ensuite il faut revenir dessus régulièrement pour vérifier si l'état de données sont remplies.
À ce niveau-là, c'est pas aussi simple, parce que, disons, n'importe qui peut déposer un préprint sur Archive. Il y en a à peu près, je dirais, 500 par jour. Donc c'est un flux quand même important. C'est dédié aux auteurs. C'est-à-dire les auteurs, nous c'est un protocole qu'il y a, c'est un protocole informatique qui est de faire une mise à jour des métadonnées. Mais après, c'est libre aux auteurs de remplir les métadonnées, certaines métadonnées. C'est pas systématique. Si l'auteur peut très bien déposer un préprint alors qu'il l'a présenté à un colloque, mais il a oublié de noter qu'il l'a présenté au colloque, par exemple. Donc il n'y a pas de règle qui dit que si un article n'a pas de métadonnées journal de référence remplies, il est en cours de lecture. Non, ça c'est pas systématique.
Pas y avoir une mention simple article en cours de relecture ou article relu accepté. Point barre. Excusez-moi, moi je suis à des pâques. Mais...
Ben, disons, article revu. Là, enfin, je veux dire, cette métadonnée, pour nous, c'est une reconnaissance. Genre, c'est aussi une validation de notre activité. Je veux dire, parce que n'importe qui peut accéder à cet article sans passer par la plateforme Episcience. On va sur Archive, on tape des mots-clés, on a tous les articles. Un peu comme on va sur le Science Citation Index, on va sur le Web of Science. Et on tape des mots-clés, on obtient 3000 abstracts, et dans les abstracts, il y a une métadonnée qui cite le nom de la revue. Ça, c'est...
Alors, cette métadonnée, qui la rajoute ? Est-ce que c'est la
revue ? Ça, c'est Episcience.
D'accord.
C'est une fois que l'article est accepté, donc avec les API d'Archive, il y a une modification de... Donc c'est Archive qui autorise ça, c'est une convention. C'est pas l'auteur qui l'a rajouté.
Ok, merci.
Il me semble que vous aviez dit que sur le PDF, une fois accepté, il y avait quelque chose qui était noté dessus, qui montrait qu'il avait été accepté. Non, j'ai mal compris.
Oui, ça c'est quelque chose qu'on a mis en place récemment, qui n'est pas encore complètement opérationnel. Mais c'est effectivement c'est quelque chose qui est ça c'est une fois qu'on télécharge le PDF, c'est-à-dire c'est quand on clique sur le bouton PDF, quoi. Après il y a la notice et il y a le full text.
Bonjour. Justement sur ce sujet, est-ce que vous envisagez d'être proactif dans la sélection d'articles, c'est-à-dire aller dans les bases de données puisque vous faites du data mining et chercher des articles qui pourraient être tomber dans le géant de votre journal et les passer à votre reviewing process et leur donner votre label. Et typiquement, indiquer dans les archives si l'article est déjà soumis et pas dire le nom de la revue, ce qui est normal puisqu'il peut être refusé. Et puis une fois qu'il a été accepté, dire le nom de la revue, ça pourrait vous aider à appliquer cette méthode.
Oui, alors on l'a fait. Donc j'ai encadré une stagiaire pour essayer de faire ce type de travail. Il faut être très précautionneux dans ce genre d'initiative parce que on va retomber à un moment donné sur l'humain, c'est-à-dire que on va trouver un article très bien de manière automatique, mais à un moment donné, il faudra faire une prise de contact avec l'auteur. Et l'auteur peut ne pas apprécier qu'on fasse justement, qu'on soit proactif vis-à-vis de lui. Certains auteurs apprécient, ils disent « Ah ouais, super, je connaissais pas cette revue, génial, je vais présenter mon travail. » À d'autres vont dire « Mais pour qui ils se prennent ? Moi, je sais quelle revue vers laquelle je veux aller. » Et donc, faut être très vigilant là-dessus. Mais sinon, sur le plan, on va dire, data mining, on l'a fait, et je suis content de l'avoir fait. Et ce type d'initiative, je pense qu'on va encore le développer. Pour des bases, peut-être, mais aussi pour essayer d'identifier des travaux qui pourraient être originaux, qui seraient, donc on appelle ça des crawlers. Donc, dans le jargon, et d'identifier des articles dans les colloques. Donc sur Internet, souvent, les organisateurs sont fiers d'afficher le programme de leur colloque, et donc essayer d'aller graber des sites pour identifier. Bon, c'est pas simple, hein, c'est facile à dire, mais la sémantique, elle est source d'ambiguïté. On tombe souvent sur du bruit. Mais c'est une remarque très intéressante, effectivement.
J'avais une question. Je voulais savoir si ce phénomène, en fait, existe dans d'autres pays. S'il y a des universités prestigieuses qui travaillent aussi sur des projets identiques.
Question intéressante, mais je ne sais pas. Alors, les éditeurs font leur plateforme, évidemment. Bon, par exemple, Springer a fait Biomed Central. Donc, d'ailleurs, un article accepté par une revue qui s'appelle Biodata Mining. Donc là, c'est le modèle Gold Open Access. Donc les grands éditeurs, en général, font leur plateforme. Mais après, des initiatives qui sont pilotées par... Parce que là, c'est institutionnel. Hein, je veux dire, comme on disait à un moment donné, c'est une remarque très juste, et je pense que j'en suis assez fier, c'est que c'est les institutions qui portent ce type d'initiative aussi. Donc à ce niveau-là, non, je n'ai pas connaissance. Mais il y a peut-être quelque chose hein, qui est fait au Japon ou au Canada, je ne sais pas.
J'ai une petite question. En fait, moi, j'aime beaucoup ce genre d'idée d'open access. Mais en fait, moi, je suis un chercheur. Je viens de faire un travail original et super. Donc, je pense naturellement que je pourrais le publier dans le meilleur revue, disons, classique, avec un éditeur connu qui existe dans le domaine. Après, je fais un PDF, je le mets sur un site comme All. Et si je ne suis pas vraiment la loi, je mets le PDF de journal sur ResearchGate aussi, ce qui est vraiment le cas pour beaucoup de papiers. Donc, mon papier est publié dans une revue prestigieuse. Et il est accessible à tout le monde parce que je l'ai mis à droite, à gauche, partout sur Internet. Et là, qu'est-ce qui va me motiver de soumettre mon papier, le même papier, dans une revue open access?
Mais la question, si vous êtes dans une revue, un éditeur classique comme Elsevier, ils ne vont pas vous autoriser à mettre le PDF?
Oui, mais tout le monde le fait. Après, non.
Tout le monde le fait?
Le PDF de revue, on n'a pas droit, mais on crée des PDF à partir de nos fichiers Word ou LaTeX, mais là, on a tout à fait le droit de le mettre sur All. C'est ça qu'on fait sur All, en fait. C'est une autre version. Ce qu'on n'a pas le droit de mettre, c'est le PDF de revue. Mais on peut la contenu, on peut le mettre ailleurs, n'importe où sur Internet, ça c'est tout à fait légal. Et même maintenant sur ResearchGate, il y a tous les gens qui mettent, beaucoup de monde qui met le même le vrai PDF de journal sur ResearchGate. Il y en a beaucoup, beaucoup vraiment.
De plus en plus de revues autorisent le Last Author Manuscript de le mettre en ligne aujourd'hui, à cause de la pression de ça, ce qu'on appelle le dernier manuscrit d'auteur, avant qu'il y ait la pagination, les en-têtes et autres.
Ah, d'accord.
Sur on fait ça et c'est tout à fait légal.
Moi je pense que à ce niveau-là, c'est la caution morale, on va dire, qui est en fait une activité professionnelle. C'est une activité de conscience. Je veux dire, soit vous avez une conscience professionnelle et vous dites, il y a des gens qui sont d'un bon niveau, qui peuvent garantir que ce que je fais, c'est cohérent avec ce qui existait avant. Avec une originalité qui est pertinente, palpable, mais a priori, de toute façon, n'importe qui peut être chercheur et n'importe qui peut produire des PDF n'importe où. Donc, je veux dire, je pense que c'est une question de conscience professionnelle. Personne n'oblige, sauf. Je veux dire, si la manière dont on évalue votre carrière, si on vous dit, voilà, si ça choque personne autour de vous de publier des PDF dans Archive et que tout se passe bien, faut continuer. Hein, je veux dire. Moi, je pense que derrière un épi-journal, ou n'importe quel journal, mais derrière un épi-journal, il y a une communauté. Quoi. Il y a une communauté, il y a une activité. Enfin, mais ça, c'est. Je pense que la recherche fonctionne aussi comme ça.
Oui, donc sans chercher à vouloir à avoir le mal partout, on a parlé des articles acceptés, il y a aussi les articles refusés. Alors, ils peuvent être refusés parce qu'ils sont mauvais, mais aussi parce qu'ils sont hors sujet, bien qu'étant très bons. Et est-ce que, dans la mesure où tout est librement accessible, on ne devrait pas craindre des prédateurs, enfin des chasseurs d'articles refusés qui s'approprient les idées, enfin, est-ce que la revue offre une garantie, genre cet article a été déposé à telle date par tel auteur?
Non, on n'est pas à l'abri de ça. On n'est pas à l'abri de ça, sauf de dire, sauf de blacklister les prédateurs. C'est ce que fait Bill. C'est de dire, voilà, faites attention. Si vous allez regarder les revues de cet éditeur-là, ça ne sera pas de très bonne qualité. Donc, c'est des mises en garde. Mais effectivement, bon, moi, je pense qu'en tant qu'éditeur en chef, je ne vais pas me permettre de modifier des métadonnées dans Archive pour dire cet article a été refusé par notre journal. Donc,
si je peux me permettre d'intervenir, peut-être que le risque... il me semble que quand on dépose son article dans une base de données comme HAL ou Archive, ça a une façon de prendre date. Et oui. Donc c'est une preuve d'antériorité. C'est plutôt, on n'est oui. pas à l'abri d'un auteur qui dépose un manuscrit frauduleux et qui s'approprie les résultats de quelqu'un d'autre. C'est plutôt ce schéma-là qui pourrait être inquiétant.
Disons, bon, ça, c'est le travail de, enfin, c'est un peu en gros, c'est un peu ce qui est évoqué, c'est la notion de plagiat, en gros, c'est ça. Mais bon, là encore, ça fait partie du travail des relecteurs de vérifier que le travail qui est soumis n'a pas été déjà publié. Je pense que c'est un peu l'intérêt d'avoir un comité éditorial, c'est d'apporter une caution sur la validité des résultats et le fait que les résultats sont originaux. Maintenant, c'est vrai que sur Archive, n'importe qui peut déposer à peu près n'importe quoi. Donc, sauf que là, l'épi-journal n'est pas censé être à la chasse des articles sur Archive. C'est-à-dire que Archive est vu comme un dépôt. C'est une étape préliminaire. Donc, un auteur dépose sur Archive, ensuite c'est relu. Bon, si l'article n'est pas bon, ça reste sur Archive. Bon, tant pis, on n'y peut rien. Mais je pense que ça ne sera pas le premier.
Je propose qu'on passe à notre deuxième intervenant. Et je pense effectivement que, on parlait des épi-revues, mais de manière générale, toutes les archives ouvertes ont été conçues pour que en conscience, des chercheurs qui estiment avoir produit quelque chose d'original puissent prendre date et mettre leur article sur une archive ouverte. Si des chercheurs mettent n'importe quoi sur Archive et HAL, ils se discréditent assez rapidement. Mais c'est un autre débat. Je vais donner la parole à Mathieu Andreau, qui va nous parler, donc, comme toujours en bon français, de crowdsourcing et crowdfunding. Donc, comment coproduire la science et cofinancer la science par le grand public ou un public averti.
Alors, je travaille aussi à l'Institut national de la recherche agronomique sur des projets de numérisation et de text mining. Et alors, je fais aussi une thèse sur le crowdsourcing appliqué aux projets de numérisation et aux bibliothèques numériques. Alors, ce qui m'a amené à faire ce sujet de thèse, c'est que précédemment, en fait, j'ai travaillé au Muséum national d'histoire naturelle et j'avais eu des mécénats pour numériser des ouvrages anciens. Donc, c'est pas tout à fait du crowdfunding non plus, mais c'est déjà une première approche. Et après, à l'École nationale vétérinaire de Toulouse aussi, où j'étais en poste, j'ai vu un autre mécénat, là, cette fois avec la fondation Wikimedia, qui porte Wikipédia, et on avait numérisé une centaine de thèses anciennes de l'École vétérinaire, qu'on avait mis en ligne sur Wikisource, et des internautes avaient bénévolement corrigé l'OCR, c'est-à-dire le texte tel qu'il est reconnu par des logiciels, ils l'avaient fait bénévolement. Donc voilà, c'était ces premières expériences qui, après... Comme j'ai travaillé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève sur des gros projets de numérisation du patrimoine, après ça m'a amené en fait à vraiment essayer de regarder qu'est-ce qu'on pouvait faire de tout ce qui était numérisé en faisant appel aux internautes. Alors je vais regarder comment ça marche. Voilà. Alors En fait, l'origine du mot, ça vient de quelqu'un qui avait publié en 2006. Si vous voulez, en fait, il s'agit donc de deux mots, la foule et l'externalisation. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à présent, ce qui se passe dans les bibliothèques, c'est que quand on lance des chantiers de numérisation et que après on fait ce qu'on appelle un OCR, par exemple, c'est-à-dire une reconnaissance de caractère avec un logiciel, eh bien, on fait appel à des pays à bas coût, comme Madagascar, comme l'Inde, pour corriger, parce qu'il y a énormément d'erreurs qui sont faites, parce que ça dépend de la qualité de l'original et de la numérisation également, mais on va faire appel à des sociétés, à des prestataires dans ces pays à bas coût pour corriger l'OCR ou pour produire des métadonnées. Donc c'est très très coûteux, et donc l'idée qu'il y a derrière le crowdsourcing, c'est-à-dire c'est que au lieu d'externaliser vers des pays à bas coût, et ça c'est d'ailleurs plus général, c'est beaucoup plus large les simples bibliothèques numériques, c'est qu'au lieu d'externaliser vers des pays à bas coût, en fait il est beaucoup plus judicieux d'externaliser auprès de la foule des internautes qui sont déjà en ligne, et ils ont juste besoin d'être connectés au réseau pour pouvoir travailler pour des projets. Alors ce travail il peut prendre des formes diverses, il y a du crowdsourcing explicite, il y a du crowdsourcing implicite, il y a de la gamification, on va en parler tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on va faire participer les internautes sous la forme de jeu, donc, les bibliothèques, pour leur part, elles peuvent bénéficier du travail des internautes, elles peuvent aussi profiter de leur argent, là, on parle de crowdfunding, c'est-à-dire de financement participatif, et on peut aussi bénéficier des compétences et des connaissances des internautes qui sont bien moins limitées que celles des équipes de conservateurs. Puisque, en réalité, quand on a quelqu'un qui consulte un document qui a été numérisé, c'est quelqu'un qui en a besoin et donc qui connaît mieux le sujet que le conservateur de bibliothèque de manière générale. Alors, ça date pas d'hier, en réalité, le crowdsourcing. Parce que, si vous voyez, là, en fait, quand on parle, par exemple, des souscriptions publiques, c'est exactement la même chose que le crowdfunding. Sauf que, finalement, Internet a permis de lui donner une dimension nouvelle. Vous voyez, donc là, je vous ai mis comme ça un certain nombre de faits historiques qui sont déjà des premières formes de crowdsourcing, en fait. Alors, parfois, il y a des choses originales. Voilà, par exemple, vous voyez, là, c'était une souscription pour construire un ballon en forme de poisson. Il y a des choses assez rigolotes. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire que le crowdsourcing, il y a un intérêt économique assez important derrière. Parce que si on regarde bien, Wikipédia, c'est une encyclopédie qui a été produite grâce aux contributions bénévoles des internautes, de manière totalement gratuite, et on calculait à 100 millions d'heures bénévoles, et puis il y a aussi des dons, en fait. Mais si on regarde bien, si on considère que les Américains regardent la télévision 200 millions d'heures par an, en fait, ils pourraient créer, tous les ans, 2000 projets comme Wikipédia, au lieu de regarder la télévision. Donc, alors que Wikipédia, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment un potentiel très très fort pour le crowdfunding, qui est une forme de crowdsourcing, et pour le crowdsourcing lui-même. Alors, c'est aussi un sujet d'étude. Là, je vous ai mis le nombre de publications qui comportaient crowdsourcing ou crowdfunding dans Google Scholar. Vous voyez, donc on voit une croissance très forte. Alors, par contre, dans les bibliothèques françaises, c'est un sujet qui n'a pas encore vraiment été mis en œuvre, puisqu'il n'y a pas eu d'étude sur le sujet en France avant 2013, une étude faite par la Bibliothèque nationale de France avec un état de l'art. Et puis, dans une étude qui fait quand même assez référence sur le sujet, qui avait été conduite par une organisation internationale qui fait référence, ils avaient étudié tous les projets de crowdsourcing appliqués aux bibliothèques numériques, et en fait, il n'y avait pas un seul projet en France dans cette étude. Alors, ce qui est assez intéressant pour revenir assez largement sur le crowdsourcing, c'est que l'origine idéologique du crowdsourcing peut être assez diverse en réalité. Parce que finalement, on peut y voir une filiation avec le marxisme d'une certaine manière, puisque par exemple, cette phrase qui est de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins, qui en réalité est assez faussement attribuée à Karl Marx, alors qu'en fait c'était finalement Louis Blanc, donc un Français qui en est à l'origine. En réalité, si on regarde bien, si un très gros contributeur d'un projet de crowdsourcing, comme Wikipédia par exemple, un très gros contributeur, eh bien, il va pas forcément être le plus gros consommateur également. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de proportion entre les deux, et il y a une sorte de critique de la loi de la valeur qui est au fondement même du marxisme, en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va contribuer plus qu'on va forcément consommer plus ce qui aura été produit. Donc il n'y a pas ce qui est le fondement de la loi de la valeur dans le crowdsourcing. Donc il y a une sorte de critique de l'économie politique derrière. Ça peut aussi être apparenté à de l'anarchisme libertaire, puisqu'en fait, finalement, le bénévole, l'amateur, il est mis exactement sur le même plan que le professionnel et que le spécialiste. Ils sont mis sur le même niveau, donc c'est une critique aussi de l'autorité et une critique de la hiérarchie. On peut aussi y voir des traces d'humanisme et d'humanisme chrétien, puisque en fait finalement on replace l'être humain au centre d'Internet, c'est-à-dire que au lieu de confier tout aux algorithmes, en fait on va retrouver l'être humain comme moyen de produire de la connaissance et puis comme finalité également. Et puis aussi, ça intéresse les libéraux, puisqu'en fait, derrière le crowdsourcing, il y a aussi le fait de se libérer des anciens carcans, en fait, qui n'ont pas, notamment en France, totalement été débarrassés par la Révolution française, des anciens corporatismes il y a une liberté totale d'entreprendre, et on le verra par exemple avec quelques projets. Qu'on est aussi très très proche d'une loi du marché sans aucune entrave. Alors, regardez c'est assez rigolo, mais par exemple, je vais vous parler aussi de quelque chose qui est la gamification. Alors la gamification, c'est quand on fait travailler les internautes sous la forme de jeux. Des jeux qui ont une finalité. En anglais, on dit « games with a purpose ». En fait, ce sont des jeux qui vont permettre de produire réellement de la valeur. Donc, c'est pas sans rappeler, finalement, d'une certaine manière, le stakhanovisme avec l'émulation socialiste, où on organisait des compétitions entre les ateliers, où le meilleur ouvrier allait se voir récompensé par une médaille de l'ordre Lénine ou des choses comme ça. Et en fait, on voit qu'il y a une similarité, finalement, entre ce modèle-là et le fun at work qui là est plutôt d'inspiration libérale finalement. Alors, il y a certains penseurs en fait qui parlent d'économie participatiste, qui parlent aussi de la fin du salariat. Ce qui est intéressant en tout cas dans le crowdsourcing en fait, c'est qu'il y a une disparition de la frontière entre les loisirs et le travail. C'est-à-dire que quand je suis en train de consommer des biens culturels par exemple, je suis en même temps en train de produire des données qui ont une valeur. Et puis de la même manière, quand je suis en train de consommer, finalement, je produis, en fait. Donc c'est ça qui est assez révolutionnaire et peut-être même un peu subversif dans le crowdsourcing, en fait. Alors, il y a des critiques, donc là, ça va vous faire un petit peu rigoler, mais si vous voulez, la peinture que vous voyez là, c'est l'œuvre d'un amateur. Donc la restauration, vous voyez, est quand même d'une qualité assez rigolote. Mais si vous voulez... Parmi ces critiques, en fait, on peut dire que le web 2.0 serait une nouvelle idéologie, avec tout le caractère totalitaire qu'il peut y avoir derrière. Il y a l'aspect un peu du déterministe, en fait, qui reviendrait en force derrière ces idéologies-là. On parle, par exemple, de l'idéologie californienne, qui est un mélange de libéralisme et de libertarianisme. Donc et puis surtout, on parle d'exploitation du travail gratuit, et donc on parle de servuction. Parce que par exemple, sur l'Amazon Mechanical Turk Marketplace, alors je vais vous en parler tout à l'heure, il y a des entreprises qui proposent des micro-tâches à des internautes, mais c'est elles qui fixent le prix. Et donc si on regarde au total, c'est en dehors de tout cadre juridique, en dehors de... voilà. Donc c'est vrai que là, on est dans un système où, d'autant qu'en fait, comme l'entreprise... et finalement totalement éloigné de l'internaute qui va faire le travail, il n'y a plus du tout d'humanité dans le rapport qui peut lier en fait le patron à son salarié. Voilà. Donc on parle aussi, comme c'est quand même une manne qui rapporte beaucoup d'argent, de fiscaliser les données. Alors voilà aussi parmi les critiques. Là par exemple, ici vous avez une image qui vient de la bibliothèque du Congrès, qui a tout mis en fait sur Flickr, pour que les internautes puissent documenter l'image. Et là, en fait, on voit qu'il y a tellement eu de participation des internautes que cette image devient totalement illisible. Et puis on peut trouver un peu n'importe quoi. C'est vrai que la qualité est vraiment en question sur dans ces sujets-là, parce que finalement, parfois dans les tags qui vont être mis par les internautes, il y en a qui vont mettre super, enfin ils vont mettre vraiment. Parfois il peut vraiment y avoir n'importe quoi. Et puis ça peut être ressenti comme une appropriation individuelle d'un patrimoine qui devrait rester quelque chose de collectif par le lambda, par le trivial. Mais c'est un peu ce que je vous disais quand même en introduction. Si on regarde bien, l'internaute qui consulte un document numérisé, en fait, il connaît mieux le sujet que le bibliothécaire qui va l'indexer. Puisque lui, c'est un sujet qui l'intéresse vraiment et pour lequel il a vraiment des compétences. Donc les tags qu'il est susceptible d'apporter sont finalement de meilleure qualité. Et on le voit, il y a eu des études comparatives qui montrent qu'en fait la qualité du travail apporté par les internautes pour redocumentariser les documents qui ont été numérisés est très très importante en fait. Alors après, on pourrait aussi parler de la sagesse des foules qui fait que il y a eu pas mal d'expérimentations qui montrent que quand on a un volume suffisamment important de contributeurs, la moyenne de ce qui va être produit est assez proche en réalité de la vérité. Par exemple, il y a des expériences. Par exemple, là, si on prenait, par exemple, je mets des billes dans un récipient et je vous demande à tous de me dire combien il y en a. Eh bien, après avoir récolté toutes vos estimations, en réalité, on s'apercevrait que la moyenne de ce que vous aurez donné comme évaluation sera assez proche de la réalité et sera même plus proche que ce que pourrait donner quelqu'un qui serait vraiment spécialiste des billes, spécialiste du récipient en question. C'est ça qui est quand même assez intéressant aussi. Alors, en France, c'est vrai que là, je vous ai mis une petite image de Brejnev. C'est vrai qu'on reste un petit peu dans l'idéologie soviétique. Mais c'est vrai qu'on a vraiment une difficulté pour passer d'une culture de l'information qui considère qu'en fait, une information en fait, a d'autant de valeur qu'il y a moins de personnes qui en disposent. C'est vrai qu'on a une vision parfois un peu de rentier et qui est assez difficile pour l'économie française et qu'on retrouve notamment aussi dans la fonction publique et bien évidemment dans nos bibliothèques. Il y a une sorte de culture du secret et c'est vrai qu'on voit les outils collaboratifs, même si à titre privé les Français les utilisent beaucoup, les études montrent qu'en fait on n'est pas vraiment en avance dans les entreprises sur le sujet en fait. Alors, nos institutions culturelles, il peut y avoir différents facteurs qui vont faire qu'elles ne vont pas souhaiter s'orienter vers le crowdsourcing pour leur bibliothèque numérique. Il y a une austérité quasiment idéologique, en fait, vis-à-vis du privé au sens large, hein, que ce soit les individus ou même les entreprises. Il y a aussi une perte de monopole d'accès à l'information pour les bibliothèques, hein, c'est aussi plus large au niveau de la numérisation elle-même. Et puis, il y a d'une certaine manière la crainte de se faire piller par des intérêts privés. Très souvent, les documents qui sont numérisés en France par les bibliothèques, en fait, on voit des notions où c'est marqué copyright dessus, alors qu'il s'agit d'ouvrages qui sont tombés dans le domaine public, c'est-à-dire qu'ils sont libres de droit, l'auteur est mort depuis plus de 70 ans, et en fait, c'est totalement illégal de mettre un copyright sur un ouvrage qui est dans le domaine public, puisque la numérisation de l'ouvrage n'apporte absolument rien en termes d'empreinte de la personnalité artistique de son auteur, puisqu'il s'agit d'une reproduction tout à fait mécanique d'un document. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tout ce que vous allez trouver, par exemple, sur Google Books, vous pouvez tout à fait le récupérer, en faire ce que bon vous semble. Juridiquement, c'est inattaquable. Et puis il y a également en fait, ben voilà, il y a la crainte d'une remise en question, c'est-à-dire que si demain l'amateur est capable d'indexer, de cataloguer les documents qui ont été numérisés, alors c'est d'une certaine manière une remise en question du travail des bibliothécaires. Alors dans le domaine moi qui est celui de ma thèse en fait, hein, qui est celui des bibliothèques numériques. On peut avoir différentes fonctions qui vont être externalisées auprès des internautes bénévoles. On peut faire de la mise en ligne participative, c'est-à-dire que les internautes vont carrément parfois scanner eux-mêmes les documents, ou bien ils vont récupérer des documents pour les mettre en ligne, notamment par exemple sur Internet Archive. Il y a énormément de documents qui viennent de Google Books, tout simplement parce que les internautes récupèrent sur Google Books et mettent en ligne sur Internet Archive tout à fait légalement. Alors, il y a de la numérisation à la demande. Là, on l'a expérimenté à l'INRA, justement, sous forme de crowdfunding. Là, pour une fois, là, en fait, la France avait été assez en avance sur le sujet, puisque il y a quand même, c'était au début des années 2000, il y avait une petite société qui s'appelait Phoenix Edition, parce que finalement, quand on va numériser et réimprimer un ouvrage qui était conservé dans une bibliothèque, il s'agit d'une sorte, on fait d'une certaine manière ressusciter un peu comme le Phoenix. Et puis après, il y a eu Chapitre.com, le fondateur de Chapitre.com qui s'appelait Juan Pirlo de Corbion, qui lui, en fait, a expérimenté sur 400 000 notices qui étaient conservées à la Bibliothèque nationale de France. Il a proposé, en les exposant en fait sur le web, il a proposé aux internautes d'en financer la numérisation. Et en fait, ils avaient un nombre assez important de demandes chaque jour, à peu près une cinquantaine d'après ce qu'il m'a dit. Et en fait, le projet finalement n'a pas fonctionné. Parce que, j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard, mais parce que, d'une certaine manière, il a un peu submergé les équipes de la Bibliothèque nationale de France. Mais je vais y revenir tout à l'heure. Et puis, en fait, là, en fait, actuellement, on peut, par exemple, adopter un livre sur Gallica, c'est-à-dire qu'il y a des livres qui sont proposés à la numérisation par des conservateurs, et donc les internautes peuvent en financer la numérisation. Et l'expérimentation qu'on a conduite à l'INRA, c'est avec le projet Numalire, qui consiste en fait à exposer aussi sur le web des notices bibliographiques d'ouvrages dont on propose la numérisation aux internautes. Et alors, ce qui est intéressant dans cette numérisation à la demande, c'est que son corollaire, c'est justement l'impression à la demande. C'est-à-dire que tout ce qui a été numérisé, on va pouvoir en proposer une version imprimée, une sorte de fac-similé, aux internautes qui vont pouvoir, comme ça, commander un exemplaire, cette fois-ci, qui va être broché, en fait. Hein. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de l'OCR. En fait, voilà, par exemple, là, vous avez sur la partie de droite un original, et sur la partie de gauche, que ça donne au niveau du texte OCRisé. On voit qu'il y a plein de fautes. Donc voilà, par exemple, la Wikisource. Dans la partie droite, vous avez l'image de la thèse, et dans la partie de gauche, que les internautes ont corrigé. En fait, c'était à l'école vétérinaire de Toulouse. Alors, je vous ai parlé de la gamification. Eh bien, toujours pour la correction de l'OCR, là, vous avez un petit jeu. En fait, ça a été fait en Finlande. Si vous voulez, à chaque fois qu'on voit le mot, là, vous voyez, tout en haut, en fait, c'est le mot sous forme d'image, on doit le ressaisir. Et à chaque fois qu'on ressaisit, on construit une petite brique pour construire un pont. Et en fait, il ne faut pas que les petites taupes, la petite armée de taupes qui veut traverser la rivière, se noient. Donc, à chaque fois qu'on construit une brique, qu'on saisit un mot, il y a une nouvelle brique du pont qui se construit. Si on se plante, hop, il y a une brique qui explose et on va changer de décor, les taupes vont aller de plus en plus vite et tout ça, comme dans un jeu d'arcade, hein, finalement. Mais ça, on fait du coup travailler les internautes sous la forme de jeu, d'où le terme de gamification. Alors, ça c'est très connu. Là, on est dans un cadre de crowdsourcing implicite, c'est-à-dire que l'internaute ne sait pas qu'il travaille en réalité pour Google Books. Dans ce cas-là, quand vous créez un compte sur Facebook ou sur n'importe quel site, vous avez deux petits mots qui sont déformés. Le premier mot sert à prouver que vous n'êtes pas un robot malveillant qui va créer des comptes en grande masse sur le site. Le deuxième petit mot, en fait, est un mot qui vient de Google Books, qui a été numérisé parmi les 30 millions d'ouvrages numérisés par Google. Il a été confronté à deux dictionnaires différents. Et après, bah, tous les mots qui sont douteux, on les soumet aux internautes. Et s'il y a trois votes, on dit que le mot, c'est bon, il est validé. Etc., etc. Après, il y a tout un algorithme derrière, on pourra y revenir aussi. Mais en fait, en gros, regardez, ça rapporte quand même, ça évite de dépenser quand même 145 millions d'euros par an, d'après les calculs que j'ai faits. Alors, pour les images, bah, en fait, pas la même chose, en fait. C'est les mêmes, hein, qui ont inventé le système précédent. En fait, on s'est dit qu'on pouvait faire indexer l'ensemble des images du web par les internautes grâce à des petits jeux de la même manière. Alors là, il y en a tout plein. Mais par exemple, celui qui est le plus connu, qui est le premier, hein, qui était Google Image Labeler, qui n'existe plus maintenant. Mais en gros, on soumettait la même image à deux internautes dans le monde et ils marquaient des points s'ils mettaient le même mot. Donc, s'ils mettaient le même mot, ça voulait dire que cette image était effectivement une image digne d'intérêt et donc à conserver pour l'indexation. Et grâce à ça, on arrivait comme ça à faire indexer les images par les internautes. Ça, c'était aussi un projet Google, hein. Alors, je vous parle rapidement, parce qu'en fait, je vois que l'heure tourne, d'Amazon. J'en ai parlé succinctement tout à l'heure. En fait, vous avez la possibilité, c'est Amazon qui a développé ça, en fait, pour les entreprises, mais aussi pour des institutions publiques, de proposer des micro-tâches. Donc, typiquement, on peut proposer, par exemple, la correction de pages d'OCR brut, donc d'OCR non corrigé, à des internautes en fixant le prix. Donc là, on est dans une bourse, en fait, où on s'échange des micro-travaux contre des micro rétributions finalement. en fait. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes Américains en fait et d'Indiens qui travaillent sur cette plateforme. Et même parfois, il y a des gens qui ont tellement contribué qu'ils finissent par en vivre en fait. Hein. Voilà. Alors. Pour synthétiser un petit peu toutes les formes de crowdsourcing qu'on a vues, vous avez vu qu'il y avait du crowdsourcing en fait qui était explicite, implicite, rémunéré, non rémunéré. Voilà. Alors les clés du succès d'un projet de crowdsourcing, c'est effectivement de jouer quand même, c'est-à-dire que ce qu'on va pas dépenser grâce au travail des internautes, on va quand même le dépenser en développant des plateformes, en récupérant les métadonnées produites dans les systèmes d'information, et puis en communiquant. Il va falloir communiquer. Parfois, on peut imaginer des récompenses, etc., etc. Alors là, je vous ai mis une petite slide que vous pourriez revenir plus tard. C'est en fait, il y a eu beaucoup d'études en fait sur les motivations des internautes, en fait, qu'on classe en motivations intrinsèques et extrinsèques. Donc il y a toute une classification, et les mêmes individus vont éventuellement contribuer pour des raisons totalement différentes. Hein. Voilà. Alors en guise un peu de conclusion quand même, je vous dis que ça paraît très moderne, du moins pour les bibliothèques, mais c'est déjà peut-être d'une certaine manière de l'histoire ancienne, puisque finalement, on voit là ici là, les statistiques de contribution pour l'un des plus gros projets de crowdsourcing appliqué à la correction participative de l'OCR en Australie, le projet Trove. Et en fait, on voit que ça commence quand même un petit peu à se tasser. La plupart des contributeurs aussi se trouvent quand même dans des générations de personnes assez âgées, finalement, qui s'intéressent plutôt à l'histoire locale, à la généalogie. Et rien n'indique que dans le futur, les générations de retraités qui vont arriver après celle-là auront les mêmes centres d'intérêt. Et puis, on peut commencer à trouver des limites aussi dans le temps libre disponible, en fait. Hein. Donc, il faudrait pas parfois se... Et aussi, un autre aspect qui est intéressant, c'est qu'en fait, on parle de crowdsourcing pour ces bibliothèques numériques. On devrait peut-être plutôt parler en fait de community sourcing, puisqu'en fait, ce sont finalement quelques internautes bénévoles qui sont très... très spécifique. Vous voyez, là, en fait, chaque carré, ça correspond à un bénévole. Et là, vous avez la quantité de ce qu'il a produit, qui est proportionnelle, en fait, à son carré. Donc, on voit que finalement, c'est une minorité. C'est à chaque fois une minorité qui contribue énormément, et la très grande majorité, finalement, contribue très, très peu. Alors, ce qu'on a fait à l'INRA, je vous l'ai dit, c'est une exploration de crowdfunding, donc qui est une forme de crowdsourcing, sauf que là, on ne demande pas le travail des internautes, on demande leur argent. Donc, on a proposé, ce qui est intéressant, c'est que finalement, pour l'usager, lui, ça lui permet de bénéficier d'un service de reprographie numérique. Donc c'est intéressant parce que jusqu'à présent, le livre, il n'y avait tout simplement pas accès parce qu'on n'avait pas ce type de service. Donc désormais, il va avoir accès à un Unica, par exemple, grâce à ça. Pour le privé, et notamment, on peut imaginer, par exemple, pour des investisseurs, ça peut être intéressant aussi, puisque on peut imaginer, par exemple, qu'un mécène va se dire, bah, tiens, moi, si je dis j'ai financé la numérisation de ce livre, et que ce livre fait, entre guillemets, du buzz, un gros trafic web, eh bien, ça peut valoir le coup, y compris financièrement, parce qu'une pub Google AdWords, finalement, c'est déjà à durée déterminée, puis en plus, ça coûte assez cher, au bout de 6000 visiteurs, ça peut être dans les 60 euros ou quelque chose comme ça. Donc là, on se dit, finalement, numériser un livre à 60 euros, s'il fait plus de 6000 visiteurs, ben, ça peut valoir le coup, y compris financièrement. Et puis, pour l'INRA, ben, pour nous, c'est intéressant, parce que ça nous permet de mettre en place des nouveaux services, sans avoir à en assumer le coût, en fait. Et puis, ça nous permet d'enrichir notre bibliothèque numérique, et puis surtout de l'enrichir avec des propositions qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire que la politique documentaire de la bibliothèque numérique est finalement partagée avec les personnes privées. Alors, ce qui fait que ça n'a pas forcément très très bien marché, quand même, je vous le dis, c'est que, et l'expérience a été la même pour Juan Pirlo de Corbion, qui était le fondateur de chapitre.com, qui a eu une expérimentation avec la Bibliothèque nationale de France, c'est qu'en fait, là pour le moment, on est sur un système de devis. Donc le temps de travail qui est consacré par nos équipes pour finalement regarder combien il y a de pages dans les livres, le nombre de pages réelles, quel est le format, quel est l'état, quel est l'angle d'ouverture, enfin toutes ces choses qui intéressent les prestataires de numérisation, eh bien, ce temps de travail qui est consacré à ça, finalement, il va quasiment s'équilibrer avec l'argent qu'on va récupérer grâce aux internautes. Donc l'idée, c'est de passer à un calcul automatique des prix, en fait. Alors, je vous ai mis quelques exemples aussi dans le domaine des sciences participatives. Et puis, en conclusion... ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en faisant appel aux internautes, en fait, eux, ils sont susceptibles d'apporter vraiment des ruptures innovantes puisque en fait ils cherchent pas à reproduire les modèles établis du métier. Et en fait, on voit, d'après une étude de Von Hippel, 46% des entreprises américaines dans les domaines vraiment innovants, en fait, elles ont pour origine un simple amateur au départ, un simple utilisateur des outils. Donc, pour être mis en place, ça va quand même nécessiter, en France en particulier, une véritable conduite du changement, parce que c'est quand même pas gagné non plus. Il y a de fortes oppositions. Voilà. Et vous retrouverez donc le diaporama qui est déjà en ligne, en fait.
Merci à Mathieu Andreau pour sa présentation. Dans vos domaines, à vous, chercheurs de nos établissements, est-ce que vous imagineriez faire appel à du crowdsourcing ou du crowdfunding, ou est-ce que vous y voyez un problème à plusieurs niveaux, par exemple la confidentialité des données, la peur de l'amateurisme, ça c'est un peu une question qu'on peut poser aux chercheurs qui sont présents là, dans la salle. Par exemple, projet dans le domaine du génie civil, des idées.
Je découvre un petit peu le sujet aujourd'hui, quoique en discutant avec Mathieu avant, je vais quand même, quand il m'a expliqué ce que c'était, je vais quand même citer Wikipédia, il m'a dit oui, c'est bien ça. Oui, les questions, on en a plein, mais il faut que je digère un petit peu quand même. Il y a beaucoup de choses qui sont passées vite là, à cause du temps. J'essaie de trouver une parade là. Je voudrais faire une remarque générale. On a quand même deux sujets bien différents ce matin. On a l'accès libre à la science qui est faite par des chercheurs. Et là, on a la liberté de chacun d'être chercheur. C'est un peu différent quand même. Bon, la liberté de chacun d'être chercheur ou d'être trouveur, d'ailleurs, je ne sais pas bien. Je pense que c'est toujours le. Sur un sujet donné, si on fait on essaie d'attirer des gens, des contributeurs finalement, libres du crowd searching, j'ai presque envie de dire moi. Soit c'est un sujet, on va dire entre guillemets profane, banal entre guillemets, sans aucune vulgaire, sans aucun mot péjoratif, j'ai au sens de la vulgarisation, et où chacun peut participer. Soit on va dans des sujets plus spécialisés où, à l'évidence, il y a que des gens qui sont dans le domaine déjà initiés qui peuvent participer. Donc il me semble qu'il y a des classes complètement différentes. Est-ce que finalement, dans le côté profane, tout le monde peut participer? On peut penser au sondage d'opinion, par exemple. Je ne sais pas si, ça me semble un exemple de crowdsourcing. Alors, les sondages d'opinion, on aurait derrière, il y a une phrase que tu as dite à un moment donné, la sagesse
des foules.
La sagesse des foules. Tout à l'heure, là, en prenant le café, je t'ai demandé si c'était valable pour les élections aussi. Bon, on serait allé sur un terrain peut-être un petit peu plus miné. La sagesse de la foule, ça laisse probablement perplexe un certain nombre d'entre nous. Bon, enfin, voilà, c'était les premières choses. C'était du brainstorming.
Une question là-haut.
En attendant, je peux peut-être répondre sur le point de vue assez politique. Je me suis justement, c'est pas tout à fait du crowdsourcing. Enfin, ce serait du crowdsourcing implicite d'une certaine manière, mais je me suis amusé justement à utiliser Google Trends, qui donne les statistiques de ce que les gens ont saisi dans Google, les statistiques des mots-clés. Alors moi, je m'amuse à utiliser ça, par exemple, pour savoir quand est-ce que c'est le moment pour aller chercher les morilles dans tel endroit. Mais je l'utilise aussi pour les élections, et je me suis amusé à faire un petit site que j'ai appelé, comment est-ce que je l'ai appelé d'ailleurs, barometrepolitique.net. Et sur ce petit site, en fait, ce que j'ai regardé, c'est qu'avant les élections, j'obtiens, en extrapolant à partir des statistiques que j'obtiens du nom de tel ou tel candidat, du nom de tel ou tel parti, j'obtiens en fait une masse tellement importante de personnes qui sont allées sur ces sites. Ça ne veut pas dire qu'ils vont voter pour tel ou tel, mais en réalité, quand je fais le rapport après, j'annonce à chaque fois les résultats des élections avec quasiment 1%, même pas, d'écart. Par exemple, là, les dernières élections, j'étais assez surpris parce que les résultats étaient quand même un petit peu différents de ce qu'annonçaient les instituts de sondage. Eh bien, en tout cas, jusqu'à présent, je l'ai expérimenté comme ça seulement 2-3 fois, parce que depuis que j'ai fait le site, il n'y a eu que 2 ou 3 élections. Et à chaque fois, on obtient un résultat qui est très, très, très proche du résultat final, en fait.
Je voulais juste aider Roger pour lui trouver un exemple de crowdsourcing en géotechnique. On l'a fait il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, quand on a corrigé le dictionnaire multilingue de géotechnique de Société internationale. En fait, il fallait numériser ce dictionnaire, on l'a partagé entre différents chercheurs, chacun a fait, je sais pas,
oui,
quelques dizaines de mots.
Mais ça, c'était la deuxième catégorie, c'est-à-dire des gens déjà initiés à qui on demande de participer. Oui, c'était un exemple, oui.
Oui, c'est du community sourcing, en fait.
Oui, oui. En fait, c'est le genre de choses qu'on fait sans le savoir, c'est ça?
Oui.
On peut voir un point commun entre les deux interventions, c'est à l'heure actuelle la réduction considérable de pas mal de budgets de recherche publique, et donc qui nécessite à la fois pour les modes de recherche bibliométrique aller plus vers l'open data, enfin pardon, vers le partage via des archives ouvertes des connaissances, enfin des productions de nos chercheurs. Et puis pour ce qui est des projets qui tiennent à cœur à certains de nos chercheurs et qui n'ont pas de financement pour les réaliser, on pourrait imaginer des appels au peuple ou à la communauté des initiés, peu importe, mais de toute façon un crowdfunding pour arriver, alors que ce soit monétaire ou crowdsourcing, c'est une alternative dans certains domaines à des projets qui autrement ne pourraient pas voir le jour avec la seule volonté d'un chercheur sans financement.
Moi, je pense que c'est pas qu'une question de moyens, en fait. C'est aussi, en fait, des possibilités nouvelles que jusqu'à présent on n'était pas capable même d'imaginer. C'est-à-dire que, on savait pas que c'était possible jusqu'à présent de disposer comme ça d'une masse très importante d'internautes, on s'interdisait quelque part mentalement de penser tel ou tel projet. Et là, ce qu'on a vu, bon, je suis passé très vite sur les diapos, sur les sujets scientifiques, mais par exemple, il y a des gens qui font des puzzles, et grâce à ces puzzles, on a fait des découvertes sur l'architecture des protéines. Parce qu'il y a, voilà, en fait, il y a vraiment on va pouvoir faire des découvertes qui étaient impossibles de faire auparavant, parce qu'en fait, il faut voir, en fait, finalement, les humains comme des microprocesseurs qui vont être mis en connexion les uns avec les autres, et tout ça donne une puissance qui est beaucoup plus forte que celle des ordinateurs. C'est pour ça qu'Amazon, quand ils utilisent le joueur d'échecs turc, en fait, bon, je suis passé très vite aussi là-dessus, mais si vous voulez, ce joueur d'échecs, en fait, c'était un joueur du 18e siècle, et il a joué contre Napoléon, il l'a battu d'ailleurs aux échecs, et les gens croyaient qu'il y avait vraiment une intelligence artificielle, mais c'était faux. En fait, il y avait quelqu'un qui était caché à l'intérieur de ce joueur d'échecs. Et ce que Amazon veut dire par là, c'est que finalement, l'intelligence humaine reste vraiment quelque chose qui a de la valeur, et que en connectant toute cette intelligence humaine comme des microprocesseurs beaucoup plus puissants que celui des machines, on peut obtenir des résultats qu'il était même impossible d'imaginer auparavant, en fait.
Est-ce qu'on devrait dire à l'État, au moment où on essaie de faire des économies budgétaires, bien connu que ce n'est plus la peine d'avoir de la recherche payante, alors? C'est une demi-provocation. Est-ce qu'on peut faire au sens où nous, les chercheurs, l'entendent, d'une manière plus sérieuse, est-ce qu'on peut produire de la recherche par ce système-là, des résultats de recherche?
Mais, ouais, un autre exemple, c'est par exemple, on avait des photographies d'étoiles, de planètes, en telle quantité, parce que ça avait été réalisé automatiquement par des machines, qu'on n'était pas capable de les qualifier. Eh bien, grâce à ça, là, on a demandé aux internautes de le faire, de dire, ben, ça c'est plutôt rouge, ça c'est plutôt bleu, ça c'est plutôt carré, ça a plutôt telle forme, des choses que les machines, les algorithmes n'étaient pas capables de faire, et en demandant aux internautes de le faire, on a réussi à obtenir des résultats scientifiques qu'il était même impossible d'imaginer auparavant. Donc on obtient des résultats grâce à ça, ouais.
Alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur crowdfunding, mais s'il n'y en a pas, je souhaiterais donner la parole à Roger Franck comme grand témoin. Il peut nous, peut-être plus sur le premier sujet que sur le deuxième, quoique, hein, mais sur la question des droits d'auteur notamment, et de toute cette question de la production de la publication sur des archives ouvertes des connaissances scientifiques, sur les avatars que qu'il a pu rencontrer lors de conférences internationales, lors de ses propres expériences, peut-être un témoignage là-dessus.
Oui, enfin, peut-être un peu mis différemment. Oui, moi, ce que j'ai compris, on m'a demandé de venir, parce que je suis président d'une société internationale, donc de mécanique des sols et de géotechnique, pour ne pas la nommer, donc une société savante, qui, depuis quelque temps, est tout à fait confrontée à ces problèmes d'open access aux résultats de la science. Je pense que la plupart des sociétés savantes, encore attention, il y a parfois des dessins... commerciaux, d'ailleurs, certaines sociétés dites savantes, mais en tout cas, ce n'est pas le cas de la nôtre. C'est quelque chose qui est de plus en plus, une fixation une fixation pour nous, qui est cet accès ouvert, gratuit à la science. Et les sociétés savantes sont certainement les premières en ligne pour vouloir que... leur rôle, c'est de distribuer la science quelque part, distribuer les connaissances, de coopérer sous toutes les formes possibles, imaginables. Alors, dans notre domaine, il y a deux formes de publications. Il y a les publications dans les revues à comité de lecture et il y a les communications dans les congrès. Alors, je passe sur l'intérêt de publier dans une revue à comité de lecture par rapport à publier dans un congrès. Enfin, c'est quelque chose de connu par nous tous, c'est que dans les congrès, ça vaut en général pas un clou, malheureusement. Et alors que de publier dans une revue à comité de lecture de rang A international, ça augmente son impact factor. Je laisse à chacun le soin de penser qu'est-ce qui est le plus lu, c'est pas forcément ce qu'on croit qui est le plus lu ou le plus utile à la société. Ça, c'est une autre question. C'est une des questions par exemple. En tout cas, toujours est-il que ce que je voulais simplement dire, c'est que les choses sur lesquelles on a la main, notamment les congrès qu'on organise nous-mêmes, pousse de plus en plus les organisateurs des congrès à obtenir un éditeur qui arrête de vouloir se faire céder les droits de copyright par les auteurs. Et on a une charte donc qui est en ligne, que tout le monde peut trouver lorsqu'il s'intéresse à notre domaine, qui est un modèle type de comment il faut négocier. Enfin, deux choses. Oui, comment il faut négocier avec les éditeurs d'une manière générale, soit un individu, un chercheur ou un ingénieur qui veut publier quelque chose, soit au niveau d'organisateur du congrès. Et on a fait quand même, alors c'est un peu une coïncidence, mais enfin on a fait quand même un coup magistral précisément à Paris. L'année dernière, on a eu le congrès qui a lieu tous les 4 ans. Il était à Paris, porte-maillot, palais des congrès, blablabla. Et quelques mois après, on a mis en ligne complètement gratuitement tous les proceedings. Les 5-6 volumes sont en ligne, téléchargement gratuit de n'importe quel article. Ça nous a permis aussi de découvrir dans certaines parties du monde que d'autres, à l'intérieur de nous-mêmes, si j'ose dire, avaient organisé des congrès où effectivement tous les articles avaient le droit d'être publiés comme ça. Par exemple, l'Asie du Sud-Est, qui a une espèce de sous-région, a tout de suite derrière mis en ligne tous les résultats, enfin tous les comptes rendus, tous les proceedings, comme on dit dans le jargon, continue en franglais, mis en ligne donc tous les comptes rendus des congrès d'Asie du Sud-Est. C'est en train de faire boule de neige. On pense que c'est une de nos... Enfin, moi, en tout cas, dans ma présidence, je pense que c'est une des choses très importantes à faire. On va se rapprocher de l'UNESCO aussi pour voir exactement ce qui se passe de ce côté-là, parce que l'UNESCO, à l'évidence aussi, est pour le open access, enfin, il me semble, en tout cas. Je ne sais pas si c'est nous qui les aiderons ou qui nous aideront, mais enfin, on verra. Maintenant, du point de vue, donc, pour revenir aux revues à comité de lecture qui se vendent, il y a quand même, évidemment, il y a quand même un certain scandale, puisque non seulement les auteurs, peut-être je veux dire pour certains des banalités, mais enfin tel qu'on le ressent, non seulement les auteurs ne sont pas payés, mais les les relecteurs, je cherche depuis quelque temps un mot, le voilà, bon, j'ai dû le voir quand même, les relecteurs ne sont pas payés non plus, et la revue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vend le produit du travail de tout le monde, la recherche étant souvent faite sur des fonds publics, et donc ça passe dans des profits privés. Il y a un très bon article dans le Nouvel Observateur de mai de cette année qui s'appelle purement et simplement Recherche publique, profit privé. Je ne veux pas vexer des journalistes éventuellement qui seraient ici ou similés journalistes, mais pour une fois, c'est un article que les chercheurs, scientifiques, ingénieurs, ce que vous voulez, lisent avec tout à fait à l'aise parce qu'il n'y a aucune bourde, aucune énormité. C'est très bien fait, très bien documenté. Et je vous le signale, Recherche publique, profit privé. trouvé ça dans l'Observateur, Nouvel Observateur numéro 2583.
On pourra peut-être le scanner et puis l'envoyer aux participants de
oui, je peux l'envoyer à Florence. En voilà. Tout cas, déjà,
si vous laissez votre email, on pourra peut-être vous le faire passer.
C'est très bien fait. Hein. Alors vraiment, ça ne pouvait pas mieux résumer la situation que ça. Alors recherche publique, profit privé. Alors ici, on parle d'ailleurs, pour revenir à ce qui a été dit précédemment, on parle des les famous big three, c'est-à-dire Elsevier, Springer et Wiley. Bon, on peut en citer d'ailleurs un peu d'autres si on passe à la bande des 5 ou des 7, on peut en trouver d'autres.
Donc, on n'est pas loin du monopole, quoi.
Pardon ?
On n'est pas loin du monopole.
C'est oui, un petit. Alors le problème, et c'est là où il y a une espèce de, je ne sais pas comment faut appeler ça, des relations qui sont de plus en plus malsaines, qui est que à cause de ces notions d'impact factor, les chercheurs ont intérêt à publier dans ces revues, évidemment gratuitement, ils les fournissent, ils donnent la matière à ces revues pour se faire de l'argent, et ils sont obligés quasiment de le faire pour avoir une carrière digne de ce nom. Donc il faut également prendre le problème de l'autre côté, c'est-à-dire, enfin, à mon sens, là je parle un peu comme chercheur et plutôt français, j'enlève un peu ma casquette de la société internationale, quoique les problèmes doivent être les mêmes ailleurs, mais enfin c'est mon expérience de chercheur français, c'est que je pense qu'il faut expliquer aux donneurs d'ordre, aux évaluateurs de la recherche et toutes sortes d'organismes, suivez mon regard, qui évaluent la recherche, que, comme on dit dans la vie, il n'y a pas que les revues de rang 1, lecture internationale, etc. Dans certains milieux, les gens dans la profession vous expliquent qu'ils préfèrent lire certains articles de vulgarisation ou de la vulgarisation ou des cours, j'ai presque envie de dire, des choses qui valent pas un clou, encore une fois, plutôt que des articles dans des revues à comité de lecture de rang 1 qu'ils n'ont jamais lu et que ça intéresse pas, quoi. Alors, il faut faire la part des choses. Il faut des deux. Il faut de la recherche, entre guillemets, dite fondamentale. Fondamentale, ça dépend dans quel sujet on est. Chacun met derrière le mot fondamental ce qu'il veut. Dans des revues de rang A, peer reviewed, etc., qualité. Et il faut ça. Mais il faut également que soient reconnus des travaux qui sont plus près des problèmes sociétaux, j'ai envie de dire. Un autre scandale dans l'appropriation par finalement le domaine privé de choses publiques. Dans mon domaine, on le ressent particulièrement. En géotechnique et en mécanique des sols, on travaille sur évidemment les risques naturels. Donc glissement de terrain, séisme, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Et là, il s'agit de protéger les populations, enfin au moins de prévoir au mieux. Et même ce type de recherche-là, qui est directement sociétal, il est donné gratuitement. Les résultats sont donnés gratuitement à des revues qui se font de l'argent là-dessus. Et donc, à la limite, chacun son boulot, hein, que les revues... On monte une entreprise commerciale, on arrive à une revue, elle passe en Web of Science, IZ, whatever you want, grand impact factor, ils se font de l'argent là-dessus. Bon, très bien, c'est leur plan. Mais d'un autre côté, faut quand même chacun son boulot aussi. Les gens qui évaluent les activités des personnels scientifiques, techniques et autres doivent aussi arrêter de scotcher complètement uniquement, d'avoir comme critère que ces revues de rang A. Bon, voilà quelques réflexions générales et plus serrées.
Merci beaucoup à nos invités. Il nous reste une invitée que je vous invite à aller voir donc en sortant de l'amphi et en allant profiter de l'open buffet qui se trouve, je crois, aussi là-haut, hein, c'est ça. Donc je vous invite à continuer les discussions avec nos invités, que je remercie très vivement, avec les documentalistes de l'École des Ponts, et d'ailleurs que je remercie aussi beaucoup pour cette initiative. Allez discuter avec Alexandra, elle vous expliquera comment on peut activer le Open Access Button pour arriver à faire progresser cette envie que pourraient avoir les chercheurs, peut-être qu'ils n'en sont pas assez conscients, de cet avantage d'aller quand même sur l'archive ouverte pour faire connaître leurs publications, par exemple dans des pays qui n'ont pas, comme les nôtres, les moyens d'aller se payer des revues onéreuses. Je pense à des pays en Asie ou dans les pays du Maghreb ou en Afrique, il y a des chercheurs qui n'ont pas du tout accès aux revues payantes. Les chercheurs qui peuvent publier en ligne contribue à ces échanges avec cette communauté scientifique au sens très large dans des pays émergents ou en voie de développement qui n'ont pas les moyens. Donc à tout de suite pour autour du buffet. Merci à vous.